If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous avez écouté tous les épisodes de ce podcast depuis 3 ans. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 521. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bah oui, c'est pas un jour traditionnel pour diffuser le podcast. Mais aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juin. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial dans l'histoire du podcast, de votre coach web. Parce que c'est les 3 ans pile poil du lancement du podcast. Les 3 ans pile poil du premier épisode du podcast. Et bah oui, parce qu'il y a 3 ans, je me lançais dans l'aventure du podcast. Je me disais, bah tiens, je vais faire un podcast sur la création de contenu, sur le marketing, sur finalement ce qui fait mon métier depuis maintenant 20 ans, on va dire 20 ans, et ça fait 25 ans que je fais des sites internet environ, grosso modo, on compte plus maintenant à mon vieil âge. Et donc, je voulais fêter ça d'une manière un petit peu symbolique. Et cette manière symbolique aujourd'hui, c'est d'avoir un invité. Et cet invité s'appelle Corben. Alors forcément, Corben, vous le connaissez, on connaît tous Corben, parce qu'on est tous un jour tombés sur un de ses contenus. Alors ça peut être un de ses 14 000 articles, ça peut être un statut sur Facebook, ça peut être ce qu'il raconte maintenant sur TikTok, mais ça peut être sur Instagram où il partage son potager, son café, comment il fait du pain. Ça peut être à une époque il était sur Snapchat, bien sûr. Bon, vous l'avez peut-être probablement vu sur une page Facebook, vous pouvez le voir sur Twitch, vous pouvez l'écouter dans certains podcasts, vous pouvez l'écouter dans son propre podcast, ou peut-être vous écoutez sa musique. Eh bien oui, parce que Corben fait tellement de choses que lister comme ça, c'est un peu compliqué. J'ai oublié d'ailleurs de dire qu'il y a un livre, qu'il a édité son livre, et il nous explique d'ailleurs dans l'épisode comment il a fait pour éditer ce livre, en partie, enfin il donne quelques trucs, l'état d'esprit dans lequel il est, parce que finalement, ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir, de retracer l'histoire, de comment il a lancé son blog, etc. Ça m'intéressait pas, puisque de toute façon, c'est une histoire qui est, je pense, raconté de plein d'endroits et que vous retrouverez probablement très facilement. On pourrait raconter énormément d'anecdotes dessus, mais ce qui m'intéressait, c'était un petit peu son état d'esprit, de comment il travaillait, de comment il s'organisait aussi, parce qu'on a parlé de ça, mais on a même parlé d'alimentation, de jeûne intermittent, de comment il fait du sport, de comment finalement il met son cerveau sur certains sujets. On a parlé donc de son livre, on a parlé de TikTok, de comment il s'est mis à TikTok, de comment il monte ses vidéos, de comment il travaille, est-ce qu'il travaille seul, est-ce qu'il a du monde qui l'entoure, quel un petit peu son quotidien, vous voyez tous ces aspects-là, on a parlé un petit peu de tout ça, mais je dois vous dire que je suis extrêmement fier d'avoir eu Corben pour cet épisode anniversaire, et puis pour moi, c'était un peu symbolique aussi, parce que c'est un modèle pour moi de constance, j'ai cherché le mot, mais constance et consistance aussi, mais vraiment constance dans la création de contenu autour de son blog, de tout ce qu'il met dans son blog, comment il expérimente, comment il teste, comment ensuite il repartage ça, comment ça lance des fois des discussions, comment, alors des fois des discussions qui peuvent être animées, comment aussi maintenant il est rentré aussi dans une ère par moment qui est plus collaborative, c'est-à-dire il explique d'ailleurs comment il fait ça avec Twitch, comment il discute avec Twitch, comment il découvre des choses, comment il expérimente vraiment des choses, ce qui est vraiment très intéressant, parce que vous pouvez l'impression vous dire que au bout de 14, 15 ou 16 ans de création de blogging, etc., on pourrait avoir fait le tour de la question. Alors la tech, on fait jamais vraiment le tour de la question, les astuces techniques, etc., on fait jamais vraiment le tour de la question, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que au cours des années, comment il a évolué, comment il a changé, et comment il rentre tout dans une marque, une seule marque, qui s'appelle Corben, c'est-à-dire que si vous le suivez sur Instagram, il vous parle de pain, alors que, bien sûr, son blog est plus tech, vous pouvez l'entendre dans des contenus qui sont très différents, mais pourquoi il a tout rangé, comme ça, tout rentré dans la marque Corben. Il explique pourquoi, vraiment pourquoi, et c'est aussi une question d'état d'esprit, et ce qui est intéressant, c'est que le contenu qu'il fait, comment il partage, comment il est, etc., c'est vraiment lui, quoi. C'est vraiment lui. C'est-à-dire que, comme il dit, il y a des gens qui le suivent tous les jours, qui le connaissent bien et qui le connaissent vraiment très bien parce qu'il partage énormément de choses. Et je peux vous dire, si vous le croisez, vous verrez qu'il n'est pas différent de ce que vous voyez sur les réseaux, etc. Parce que vraiment, on ne peut pas être différent quand on partage comme ça son quotidien, quand on raconte ses expérimentations, quand on fait du contenu depuis son bureau, du Twitch, qu'on discute avec les gens. Il y a un moment donné, vraiment, si vous voulez jouer un rôle, ça ne marche pas. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons donc Corben, tel qu'il est, tel qu'il réfléchit, tel qu'il pense. Et vraiment, c'est un épisode qui vraiment, je pense, voyez, il y a l'état d'esprit. Vous allez peut-être être surpris par certaines anecdotes, par certaines méthodes de travail, mais vous allez aussi voir comment finalement tout ça se consolide, c'est-à-dire comment créer du contenu sur un support, puis sur un autre support, puis encore sur un autre support, comment tout ça se consolide. Je vous donne un exemple dont il parle, comment par exemple le fait de s'être mis à la musique, de créer de la musique, l'aide par exemple à améliorer la qualité de ses contenus pour faire de la vidéo, pour faire du podcast, par exemple sur le traitement du son. Donc on a parlé de nombreux sujets comme ça, et c'est vraiment un épisode qui est très 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 riche en informations. Bon, avant de vous laisser maintenant avec cette discussion avec Corben, je vous rappelle que vous pouvez mettre une note sur Apple Podcast, que vous pouvez mettre un commentaire 5 étoiles, tati patata, ça bien sûr vous le savez, mais vous savez ce qui aiderait aussi beaucoup le podcast, c'est que vous partagiez autour de vous. Alors vous pouvez le partager à un ami en faisant connaître, mais vous pouvez faire aussi une sorte de petite dédicace, vous voyez, par exemple sur... Vous pouvez aller sur Twitter, partager le lien vers les notes de l'épisode. Vous faites votrecoachweb.com/521 pour tomber sur l'épisode pile poil. Vous pouvez partager ça aussi en story, par exemple sur Instagram, partager le lien vers Spotify, partager le lien vers le podcast, etc. Mettre un petit message, me dire par exemple où vous écoutez le podcast, qu'est-ce que vous avez appris du podcast, une anecdote, etc. Voilà, vous voyez des petits trucs comme ça qui font sortir le podcast de la sphère podcastique, j'ai envie de dire, et qui permettent à plein d'autres gens de découvrir la richesse du podcast. Ça aidera, moi, le podcast à se faire connaître, à continuer à se faire connaître. Et ça aidera, je pense, des gens aussi à découvrir la richesse du podcast, parce que c'est vraiment une richesse. Et c'est ce que j'ai découvert en 3 ans en faisant du podcast en quotidien. C'est la richesse du podcast. C'est tout ce qu'on est capable de faire en podcast, tout ce qu'on est capable de partager, tout ce qu'on est capable d'apprendre et tout ce qu'on est capable de repartager. Et vraiment, voilà, c'était aussi le sens de cet épisode-là, parce que Corben fait partie de ces modèles de gens qui apprennent, qui testent, qui expérimentent, qui repartagent, et c'est une boucle comme ça avec des gens qui peuvent lui dire merci d'avoir partagé des astuces, des fois qui vont lui dire qu'ils sont pas d'accord, mais en tout cas, lui, derrière, il a construit tout son univers autour de ce partage, de cette expérimentation, et il nous raconte comment. Donc je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Corben, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Manu.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va, ça roule, pas beaucoup dormi cette nuit, mais en pleine forme quand même pour ton podcast, donc ça va.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en plus aujourd'hui nous sommes dans un jour vraiment très spécial pour moi. Alors même si on enregistre le lundi, cet épisode sera diffusé le 16 juin, et le 16 juin c'est les 3 ans pile poil, mais vraiment pile poil, de votre coach web. Il y a 3 ans exactement, je sortais l'épisode 0, qui était le tout premier épisode, et ce jour-là, j'ai dit « Oh, j'ai envie de faire un podcast, pour voir ce que je vais faire comme podcast, etc. » Et ce jour-là, et depuis, j'ai fait 521 épisodes, puisque aujourd'hui, nous sommes le 521e épisode, alors c'est vraiment, vraiment un grand merci d'avoir accepté d'être là parmi nous, pour fêter ce 521e épisode, et surtout ces 3 ans. Et je vais pas te demander de te présenter, parce que tout le monde te connaît. Enfin, en fait, je sais pas si quelqu'un ne te connaît pas, parce que t'es un peu le... Bon, c'est toi qui as inventé Internet et tout, donc tout le monde te connaît. Bon, on parle un peu, on déconne comme ça, mais il y a un truc, tu vois, une question. Pour commencer, je me suis dit, est-ce que tu as déjà imaginé ta vie si tu n'avais pas fait un blog un jour ?
Ouais, parce que j'ai une vie avant le site aussi, donc oui, enfin, ma vie, ça aurait été, je pense, technicien réseau ou technicien informatique, on va dire, ce genre de truc, quoi, mais. Une vie, j'en sais rien en fait, c'est compliqué, mais non, c'est difficile à imaginer, mais c'est plutôt quelle aurait été ma vie si j'avais pas eu Internet. C'est peut-être plutôt ça la vraie question. Parce qu'en fait, même s'il n'y avait pas le blog, j'aurais quand même fait des trucs sur Internet, tu vois.
Oui, alors oui, alors quelle aurait été ta vie sans Internet ? Ça, je sais pas si t'es capable de répondre à la question, même de... Si t'imagines une journée sans Internet, même si... Alors, en plus, parce qu'on va le dire, c'est que moi j'ai l'impression que t'es connecté tout le temps, puis un jour tu nous fais la surprise de nous sortir un bouquin sur la déconnexion. on se dit, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Une vie sans Internet, c'est inimaginable.
C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais il y a des moments où on peut être sans Internet. Et je le fais régulièrement, il y a des... Là, depuis... 3 ou 4 ans, tout le mois d'août, quand je pars en vacances, je me coupe complètement d'Internet. Donc ça demande un peu d'organisation et un peu de volonté aussi, parce que quand on est accro, c'est pas évident. Mais globalement, ça reste quand même des mois, le mois d'août ou même la période de Noël, ça reste quand même des périodes où il n'y a pas grand monde sur Internet. Tout le monde est un peu en vacances, il ne se passe pas grand-chose, on rate pas grand-chose, quoi.
Ouais. Bon, alors le reste du temps, ce qui fait environ, on va dire, 11 mois, 10 mois et demi dans l'année finalement, on a l'impression que t'es connecté, mais alors l'autre jour, j'ai vu un message passer, quoi, à 5h du matin, je t'avais publié un truc.
Ouais, bah je démarre tôt. En ce moment, je démarre tôt parce que je me lève. Ouais, j'ai mes périodes, des moments où je démarre très tôt. Là, comme je fais l'école aux enfants le matin, du coup, j'attaque à 5h du mat. Et vers 8h, 8-9h, je commence l'école. Et puis ensuite, je reprends le boulot vers 13h30, 14h.
Ouais, donc tu fais partie du club des 5, hein, le club des 5 heures,
Ouais.
dont je fais partie aussi, parce que si je t'ai vu un jour publier un matin à 5 heures, c'est que moi-même je publie à 5 heures, avec, bon, les gens le voient pas tout à fait, parce que j'allume pas mon téléphone avant 6 heures environ, tu vois, dans ces zones-là, juste un peu pour, j'évite, toi, de le prendre
C'est bien.
dans les mains, tu vois, parce que j'ai lu ton livre quand même, j'ai lu ce livre sur la déconnexion et tout, et j'ai vu tes astuces, et je me suis dit quand même que si t'avais écrit un tel livre, c'est que t'en as ressenti quand même un sacré besoin.
Ah bah oui, en fait, j'ai eu une phase un peu de burn-out il y a 2 ans. Donc en fait l'idée c'était, enfin tu vois, j'ai essayé plein de trucs, le sport, la méditation, enfin tout, en gros tous les trucs classiques de burn-out, c'est ralentir un peu le boulot, s'organiser mieux, enfin plein de choses différentes. Et en fait je me suis rendu compte, bah, un peu tout seul, hein, parce qu'ils en parlent pas dans les bouquins ou dans les tutos pour lutter contre le burn-out, que en fait le smartphone c'est quand même une sacrée plaie, parce que t'as beau méditer, si dans ta tête, même si ton téléphone est en mode avion éteint, tu l'as toujours dans la tête en fait. Donc tu t'as toujours envie de vérifier si t'as pas reçu un message, si il a pas sonné, si machin, etc. Donc en fait c'est un peu un frein en fait à tout ce processus. Et donc je me suis intéressé un peu à ça, ouais.
Oui, et c'est vrai qu'en plus c'est une espèce d'addiction, mais qu'ils ont créé eux, hein, avec toujours les notifications, l'espèce de petits rappels, etc., qui se rincent dans la tête. Et puis je sais pas si t'as lu la méthode, dont j'ai perdu le nom, mais donc voilà, j'ai perdu le nom, tu sais, sur MakeTime. T'as pas lu ce livre sur la méthode MakeTime?
Non.
Ils appellent ça en fait la piscine à débordement, tu sais, les avaleurs de temps, la piscine à débordement.
Ah
C'est-à-dire
oui.
que t'as toujours un truc, de toute façon, quoi que tu fasses, t'as toujours un truc qui arrive, etc. Et en plus, je me dis que toi, c'est amplifié par le côté de ce que tu fais, parce que t'es toujours une veille, tu partages, je sais pas combien d'articles, et alors je sais même pas combien tu dois avoir d'articles sur ton blog, mais combien de liens tu publies aussi en plus?
Bah, les articles, bah, en fait tout ça c'est un processus bien rodé, hein. C'est-à-dire je fais de la veille, donc je regarde un peu tout ce qui se passe. Alors après j'ai des outils, j'ai des trucs qui m'aident un peu en mode un peu intelligence artificielle, hein, pour simplifier, qui fait un peu un pré-tri de tout ce que je brasse. Et ensuite bah, je partage. Donc après ça, en gros, soit je mets de côté les choses que j'aimerais traiter sur le site, sur mon blog, voilà, ça se passe comme ça. Soit bah, je le partage directement, ce que je me dis, là c'est plus de l'actu, ça va pas trop coller avec le blog, ou alors j'ai la flemme, hein. J'ai pas envie d'en parler, mais je trouve quand même ça intéressant, et je le publie sur mes réseaux sociaux, mais voilà, c'est un peu le process, quoi.
Ouais, alors en parlant de réseaux sociaux d'ailleurs, c'est un truc où moi j'étais épaté. Je t'ai vu sur TikTok. Et en plus, alors, mais en plus, je suis sûr que ça te prend du temps de faire les petits montages de TikTok et tout. Je suis sûr que tu y passes du temps.
Non, franchement, ça me prend 30, enfin, ça me prend la durée du TikTok en fait. Déjà en contenu, bah, moi j'aime bien, enfin, j'ai une stratégie, on va dire, de recyclage, de réutilisation du contenu. Donc, ce que je poste sur TikTok, c'est un article que j'ai fait. Ça peut être aussi une vidéo YouTube. Enfin, en gros, j'essaye de réutiliser le même contenu sur différents formats, différents supports. Et en fait, non, j'ai un outil qui me permet de prendre des petites séquences vidéo à la suite, quoi. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, et j'envoie comme ça, quoi.
D'accord, oui, parce que en fait c'est extrêmement découpé quand même. Hein, je dois le dire, c'est que tu fais pas une face cam, etc. T'as des changements de
Ouais.
caméra, t'as des petits angles, c'est super découpé, c'est super rythmé hein, d'ailleurs. Tu le fais, je sais pas si t'as beaucoup d'audience. J'ai pas regardé ton TikTok récemment, mais
Non, bah à peu près, bah, j'arrive lentement mais sûrement aux 10 000 là.
oui, bon, à peu près comme partout, hein. T'as 10 000 sur
Ouais.
Insta, t'as 10 000 sur.
Là, ça a été plus vite, ça fait que 3 semaines TikTok, c'est assez phénoménal comme réseau social.
Oui, c'est ça. Et alors c'est ce qu'il faut dire, hein, parce que j'ai fait plusieurs épisodes sur TikTok, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont moqués de TikTok. Moi, j'ai dit un jour, arrêtez de vous moquer de TikTok, parce que vous savez pas ce que ça va devenir. Et surtout, c'est qu'il y a une croissance tout de suite qui est assez phénoménale. Moi, j'ai une vidéo qui a fait 49 000 vues, tu vois. Alors que moi, contrairement à toi, je partais de, j'ai pas autant d'audience, etc., à faire venir autant de gens. Mais c'est vrai que quand on se met à publier très régulièrement, ça grossit extrêmement vite et c'est extrêmement surprenant. Hein, on avait perdu un petit peu, moi je trouve, ce goût de la viralité en fait.
Ouais, puis TikTok, c'est quand même quelque chose qui est assez, Enfin, donc c'est compliqué, en même temps c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs un peu achetés, hein, sur TikTok. Les gens postent pas mal de merde, on peut le dire. Donc ce qui ressort, ce qui est beaucoup vu, c'est les gens qui font de la qualité. Donc il suffit, soit je parle pas forcément de trucs tech, hein, il y a des gens qui dansent très bien, il y a des gens qui font de l'humour super, il y a des gens qui font des super tours de magie, etc. Donc moi je me suis dit, bon, je sais pas danser, je sais pas faire de tour de magie, et je suis pas plus comique qu'un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, hein, je vais parler d'astuces tech, comme ce que je fais déjà sur mon blog ou ailleurs. Et voilà, donc le format s'y prête. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais j'ai quand même des recos TikTok qui me montrent d'autres gens qui font un peu pareil. Mais c'est pas ouf non plus. Et puis voilà, après j'ai de quoi piocher, hein. J'ai plus de 14 000 articles sur le blog, donc je peux aller fouiller un peu dans la base de données et me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant qui pourrait être intéressant, quoi.
Oui, alors c'est le gros avantage d'avoir une expérience comme la tienne, parce que bon, on l'a pas dit quand même, mais ton blog, tu l'as ouvert en quelle année?
2004.
2004. Alors là, oui, on est vraiment dans les vieux des vieux des ancêtres. Hein. Finalement, pour donner un petit peu un ordre d'idée aux gens, ça représente combien de visites?
Là, je regarde pas trop les stats, mais on doit être à, je sais pas, par mois, ça doit être un petit peu en dessous du million de visiteurs uniques par mois. Je sais pas, je sais plus, je regarde plus. Ça a baissé, hein, depuis l'âge d'or des blogs, mais ça reste dans ces eaux-là, quoi.
Voilà, oui, ça a bien baissé par rapport à l'âge d'or des blogs exclusivement, mais c'est vrai que l'audience après s'est déplacée, alors
Oui.
on te retrouve un petit peu partout, et puis c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'on te retrouve sur plein de formats différents. On peut t'écouter dans certains autres podcasts, tu as lancé ton propre podcast aussi, alors je sais pas où tu en es d'ailleurs, ton podcast.
Je continue, hein. Écoute, ça s'appelle Parallèle avec un S à la fin. Et donc le but, c'était pas forcément de parler de technologie, mais j'ai une conversation, en fait. L'idée, c'est d'avoir une conversation pour montrer un peu à ceux qui écoutent d'autres vies un peu parallèles à la leur, ou à la mienne, et de montrer un peu, d'autres gens qui font d'autres trucs qu'eux. Et donc ça parle pas de tech, mais enfin ça peut parler de tech, hein, mais ça parle de tout un tas d'autres sujets. Et je continue. L'idée, c'était d'en faire deux par mois, hein. J'ai imaginé ça un peu comme une série, une saison. Donc là, on est à la saison 1, et je sais plus à quel épisode je suis, mais bon, voilà. L'idée, c'est d'en faire 24 dans l'année, quoi.
Ouais, alors moi j'en ai écouté certains. Bon, le premier m'a foutu un peu le cafard, je t'avoue. Hein. Enfin, je sais pas comment tu sais, comment elle s'appelle, qui était en.
Céline, Céline.
Oui, et sur des trucs et tout. Enfin, mais c'est intéressant parce que justement, c'est que ça casse un peu, tu vois, l'image qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les vies parfaites, sur les trajectoires exactes, etc. Tu vois, les trucs. Là, elle parlait vraiment de ses difficultés. Je trouve que c'était vachement intéressant sur le plan de la conversation, même si je l'ai un peu casse-morale sur certains trucs quand même.
Ouais, après voilà, les gens, l'idée, c'est que les gens se livrent aussi un peu et racontent un peu, je leur envoie un petit questionnaire avant pour m'orienter un peu dans ce que je vais parler, et voilà. Enfin, après, il n'y a pas vraiment de cadre, en fait. Ça, je lance la conversation, et puis après on voit où ça nous mène, quoi. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas une interview, je pose des questions, ils répondent, et voilà.
Ouais.
Donc je parle aussi de moi, en fait, dans le podcast. C'est ça qui est marrant, c'est qu'eux me posent aussi des questions. Donc du coup, il y a des podcasts où, enfin, j'exagère un peu, mais limite, je parle en même temps, je parlais de moi en même temps que l'invité, quoi. C'est pas le but, mais ça arrive.
Ça arrive, mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est finalement, on prend un café, enfin, ouais,
C'est ça,
on est
ouais.
au café là tranquillement. Alors moi, je bois pas de café, je bois du faux café, je dis, j'ai arrêté le café contrairement à toi. Parce que on peut suivre tes aventures caféinées aussi des fois sur Instagram. Qu'est-ce que on suit alors aussi quelque chose et peut-être que les gens s'attendaient pas à te voir débarquer dans ce truc-là. C'est le milieu de la musique. Tu composes, diffuses sur SoundCloud. Hein, t'en as fait
Ouais.
un paquet là aussi des trucs.
Ouais, j'essaye. C'est nouveau pour moi. J'ai commencé en septembre dernier, donc c'est nouveau. Mais j'avais envie. C'est toujours un peu dans ce process là, tu sais, de casser un peu la routine. Je me dis, bon, voilà, tous les matins j'écris, tous les jours j'écris, etc. Au bout d'un moment, tu sais, il faut un autre truc, quoi, pour un peu s'échapper. C'est pour ça que j'ai mon petit potager. C'est pour ça que je fais de la musique. Et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Je suis pas musicien. J'ai jamais appris à faire de musique. J'y connais rien. Je connais personne dans la musique. Enfin voilà. Mais je sais utiliser un ordinateur. Donc on peut faire de la musique avec un ordinateur. Donc j'ai regardé. Et puis voilà. Et donc maintenant, je fais ça. Et l'idée, c'est quand même de Enfin, c'est pas juste de faire ça comme ça, quoi. C'est d'essayer quand même de faire quelque chose de bien. Et donc, du coup, j'apprends, en fait. Donc, je me suis tapé des formations, j'ai acheté des bouquins, je regarde plein de vidéos YouTube qui parlent du sujet. Et puis, bah, je passe du temps. Donc, j'essaye maintenant tous les vendredis de faire ça. Voilà. Donc, je fais que de la musique le vendredi.
D'accord. Alors ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et justement, on va creuser un peu ce sujet-là parce que là, ça nous amène un peu sur la thématisation des journées finalement. Hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, bon, on a parlé un peu de blog, on a parlé de musique, t'as parlé de ton potager, t'as parlé des enfants. Qu'est-ce que t'es chef d'entreprise
YouTube.
aussi, YouTube. T'as la chaîne, comment s'appelle, les Webosaures. Le jeudi, c'est du live. On t'entend chez Patrick Béja. Donc
C'est vrai que ça fait beaucoup.
on te voit sur. Il y a un truc où je sais pas si je t'ai croisé sur Animal Crossing. Je sais pas, peut-être que
Non,
t'as pas
je
monté
joue pas
encore un
trop aux
shop
jeux
dans
vidéo.
Animal Crossing.
Non. Je suis pas trop aux jeux vidéo.
Attends, qu'est-ce qui reste d'autre? Où est-ce que j'aurais pu te croiser que je me dis, mais j'ai oublié un truc. Et je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Twitter, bon, t'es là en permanence.
Les confs, Yesouillac, voilà, enfin plein d'autres trucs quoi.
Ouais. Et donc, comment tu arrives à organiser, à passer ça? Parce que, bien sûr, on a tous le même temps. Donc, toi, tu n'as pas plus de temps que nous. J'ai envie même peut-être de te dire que tu en as peut-être moins que beaucoup d'entre ceux qui écoutent. Parce que tu as des enfants, parce que tu as plein d'activités. Donc, il faut arriver à rentrer tout ça dans une journée. Donc, comment tu organises, bah, on va dire, par exemple, une semaine. Donc, tu as parlé que le vendredi, tu fais de la musique. Et d'autres jours, tu thématises. Il y a des jours, tu dis, je fais que du blog. Il y a des jours, je fais telle entreprise, etc.
Bah, en ce moment, je fais beaucoup de blogs. Donc voilà, c'est bien parce qu'en fait, comme je me suis mis sur Twitch il y a quelques semaines, du coup, ça me pousse à un peu à moins procrastiner quelque part et enfin, me forcer, je me force pas, mais à avoir un objectif un peu plus précis. Donc voilà, de faire des tutos, des choses comme ça, de tester des logiciels, d'écrire des articles, etc. Donc je suis un peu plus sur le blog en ce moment. Non, bah après, ma semaine, elle est un peu... voilà, le matin, c'est de la veille en général. Et puis l'après-midi, c'est plus de la rédaction ou des tutos. Alors comme je te dis, je recycle. Hein, donc si je fais un tuto écrit sur un logiciel, voilà, sur le site, je vais essayer d'en faire une vidéo. Voilà, donc en même temps, je fais un live sur Twitch. Et puis, quand mon tuto est fini, si ça mérite d'aller sur TikTok, bah, je vais faire un petit TikTok dans la foulée. Donc, c'est un peu ça, en fait. Mais ensuite, le podcast, je l'enregistre un peu quand je peux. Donc, ça dépend. Enfin, après, j'en fais deux par mois. Donc, c'est pas non plus un truc qui prend beaucoup de temps. Mais je m'adapte à l'invité, en fait, en fonction de son planning. Donc, ça peut être le midi, le soir. Enfin, voilà. Le jeudi, effectivement, on a Webosa avec Rémi, donc ça prend, on fait toujours un peu à l'arrache, on prépare rien, donc ça me prend pas de temps Webosor, ça, on se pose et puis on se filme pendant une heure et demie et puis voilà quoi. Donc voilà et le vendredi, ouais en fait le vendredi j'ai toujours bossé le vendredi, hein, puis même je bosse le samedi et le dimanche. Alors c'est pas régulier le samedi dimanche, ça dépend en fait. Quand j'ai un moment de creux, je me dis bon bah je me mets devant le PC. Sauf qu'au lieu de jouer, bah, je fais mes trucs, quoi, je bidouille, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte toujours dans cette démarche de se vider un peu la tête et de réduire un peu le rythme. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'abattais la même quantité de travail en 4 jours qu'en 5. Donc en fait, du coup, je me suis dit, le vendredi, enfin l'idée de base du vendredi, c'était de dire, le vendredi, je fais ce que je veux. Donc je peux faire mon potager, je peux regarder la télé toute la journée. En fait, je culpabilise pas de pas bosser quoi. Je peux faire n'importe quoi, je m'en fous. Je peux me balader, je machin, j'ai pas de contraintes. Mais le fait de m'être mis un peu la musique et puis en plus j'aime bien ça, tu vois. Donc j'ai envie de passer ce temps-là à faire de la musique. Donc c'est pour ça que le vendredi je dis que c'est dédié à la musique, mais à l'origine c'est pas ça quoi. À l'origine c'est de me dire que c'est dédié à ce que je veux quoi. C'est un peu du temps libre, c'est un peu comme chez Google où t'as une journée par semaine où tu peux expérimenter tout ce que tu veux. Voilà, donc c'est un peu ce concept-là et finalement ça se ressent pas sur ma quantité de boulot parce que voilà ça rentre dans le truc. Après sur les articles. Je programme aussi des articles. Avant, j'étais un peu en flux tendu. C'était un peu compliqué parce que les jours où j'étais pas là, bah, il y avait zéro article sur le site. Donc, c'était un peu pénible pour les gens. Et puis, les jours où j'étais là, bah, je pouvais en poster 5 dans la journée. Donc, c'était pas forcément très régulier.
Ouais, c'était aussi
Là,
pénible.
pénible, oui, ça peut être pénible. Ouais. Et donc, du coup, là, l'idée, c'était d'en publier minimum un par jour. Voilà. Donc, là, j'ai des articles programmés jusqu'au mois de juillet. Là, je dois être au 18 juillet ou 17 juillet, un truc comme ça. Donc, j'ai de l'avance aussi sur les articles, donc ça me permet d'absorber aussi les fois où je peux pas écrire, où j'ai pas envie. Et puis les fois où je trouve plein de trucs, bah, je fais 3-4 articles dans la journée et puis je les programme, quoi.
Oui, parce que là, je suis en train de regarder, je suis sur ton site tout de suite, je vois 3 articles le 15 juin quand même, donc aujourd'hui, hein, on enregistre le 15. Donc là, quand même, tu as été. Il y a du rattrapage aussi parce que tu publies Cultosaur, je me suis dit, peut-être tu as
Ouais,
le temps de
c'est
le
ça,
mettre
c'est.
ou.
C'est bah ouais, mais par exemple, voilà, le Webosaur, on l'a enregistré jeudi, je l'ai publié sur YouTube et j'ai programmé l'article pour aujourd'hui. Voilà, comme ça fait un. C'est toujours cette histoire de recyclage, en fait, de contenu. Il y a
Ouais.
ça aussi.
Ouais. Moi, je suis aussi un grand adepte du recyclage, hein. Ça fait partie des techniques que je prône depuis longtemps, puisque moi je le fais, puis je duplique dans beaucoup beaucoup d'endroits. C'est vrai que les gens osent pas recycler des fois. Ils disent, ouais, mais il faut que je partage des choses. Alors que sinon, on est comme des hamsters, on tourne dans une roue. Alors que finalement, essayer de réinventer des choses. Alors que il y a des gens qui vont te voir sur un côté, qui vont pas te voir sur l'autre, qui vont jamais savoir d'ailleurs que tu es sur même Instagram. Puis peut-être d'ailleurs il y a des gens, je suis sûr d'ailleurs, tu vois, quand je regarde ton compte Instagram, je me demande si t'as pas des remarques de gens qui disent, mais le Corben d'Instagram, il m'intéresse pas beaucoup.
Si, bah en fait, c'est Instagram, moi j'aime bien prendre des photos, j'ai toujours aimé ça, même avant Instagram. Alors je suis pas un photographe, donc j'ai pas d'appareil photo, etc. Voilà, mais j'aime bien prendre des photos et surtout les partager. Donc voilà, donc les paysages, les photos de bouffe, les photos de mon potager, ce genre de trucs conneries, mais c'est vrai que je poste, c'est pas un compte Instagram dédié à la tech. C'est pas le but, quoi, ça m'intéresse pas. Donc évidemment, oui, il y a des gens qui sont déçus, mais c'est un peu comme Twitter, où les gens me suivent parce qu'ils s'attendent à avoir que des liens tech, et le jour où je parle de l'allocution de Macron, ou de je sais pas quoi, ou d'un fait divers, ou peu importe, ou de mon potager, etc., ils vont me unfollow, enfin, sans oublier de m'insulter avant. Mais voilà, en général, je leur réponds qu'il n'y a pas de souci, je leur rembourserai leur abonnement à mon compte Twitter, donc aucun problème. Mais voilà, non, après, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais par contre, tu vois, TikTok, bon, bah, je poste plus des trucs effectivement tech, parce que là, je sais que les gens cherchent ça, il y a un intérêt. Instagram, je m'en fous, en fait, c'est juste pour mon plaisir. Si j'avais 2 followers Instagram, ça m'irait aussi.
Alors en plus, alors ce qui est très marrant, c'est que je sais pas comment tu pratiques sur Instagram, mais je regarde sur Twitter en ce moment. Les gens peuvent être très surpris. Tu as 121 000 abonnés sur Instagram, sur Twitter, et tu ne suis que 5 personnes. Et alors ça, s'il faut l'expliquer quand même, parce qu'un jour, t'as dit, bon, j'efface tout le monde finalement.
Ouais, encore 5, c'est beaucoup, hein, mais ouais, ça dépend en fait. J'en rajoute plus ou moins, j'enlève. Voilà, des fois je me dis, tiens, lui il a l'air cool, je le suis qu'un jour et après je ne follow. Mais bah, ça c'est pareil en fait. C'est-à-dire que, si tu veux, moi je suis assez sensible, donc quand je vois les mauvaises nouvelles, les articles, les faits divers, les trucs de merde qui passent sur BFM, tous ces trucs-là qui sont tweetés, retweetés, les embrouilles, les gens, enfin les tweets clash, les machins, enfin tous ces trucs-là. Même si ça ne me concerne pas forcément directement, au bout d'un moment, ça va me miner. Et puis, je vais m'enfermer dans un espèce de truc où je vais commenter, où je vais donner mon avis, ou machin, etc. Donc là, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Même mes potes bah, retweetent un peu les mêmes merdes que tout le monde. Hein, et même moi, je retweetais ces mêmes merdes. Hein, on va dire, j'accuse personne, hein, c'est normal. Mais donc, j'ai unfollow tout le monde. Donc j'ai unfollow tout le monde en prévenant un petit peu, en disant à tout le monde, enfin en faisant un message, on va dire, générique, en disant, vous inquiétez pas, je unfollow tout le monde, mais y a rien de personnel. Donc j'ai arrêté de suivre tout le monde. Et en fait, là, les comptes que je suis, c'est juste des comptes bidons. Hein, c'est le compte de YesWeHack, le compte de Webosor. Et puis voilà, puis un ou deux comptes de temps en temps que je trouve sympa. Et puis après, quand ils me saoulent, j'arrête de les suivre et je passe à autre chose, quoi.
Oui, alors pour autant, on va le dire, hein, c'est que t'es pas non plus dans ta grotte, coupé des autres, etc. Parce que ne serait-ce que par rapport à Corben, tu fais partie de ceux qui ont un forum. Alors je sais pas si ça te prend beaucoup de temps ou quoi que ce soit, mais si on va sur ton onglet communauté, on se rend compte bon que t'as un forum qui est, ça fait un bout de temps en plus hein, que tu l'as cet espace-là, sur lequel il y a de l'activité. Je veux dire que c'est pas un résidu d'un ancien temps où les forums étaient à la mode.
Ouais, non, mais en fait, ce forum, c'est aussi l'espace de commentaires, si tu veux. Donc, voilà, les gens veulent commenter un article, donc pour le faire, ils doivent aller sur le forum. C'est un peu l'idée. Donc, voilà, après, j'y vais pas tous les jours sur le forum. Souvent, c'est pas très intéressant les réactions sur les articles, parce que voilà, les gens donnent leur avis, mais quelque part, enrichissent pas le contenu, donc vont pas forcément partager une nouvelle technique, un nouveau lien, etc. Donc ça m'intéresse un peu moins. Hein. Désolé pour ceux qui commentent, mais si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de forum du tout. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Enfin, le système de commentaires, ça ne sert à rien. Je préfère que ça passe par Twitter ou ce genre de choses. Mais après, on me l'a réclamé, on me l'a demandé. Les gens ont besoin de ça. Donc, voilà, ils ont un forum, ils sont contents, ils discutent entre eux. Moi, je me balade de temps en temps dessus, mais ça reste assez rare, quoi.
D'accord,
C'est
donc.
plus pour faire plaisir, en fait, que pour moi.
Ouais, donc t'es pas ce grand bourru que des fois on a l'impression qu'il a l'air de dire arrêtez de m'emmerder, enfin, ou je sais pas quoi, enfin, des fois
Non.
on.
Non, après, c'est tout, hein. Des fois je suis de mauvais poil, des fois je suis de bonne humeur, c'est comme tout le monde.
Oui, c'est comme tout le monde. De toute façon, chacun a sa tartine de merde. Moi, c'est mon dicton. Donc, on a tous nos bons jours, tous nos mauvaises journées, nos choses comme ça. Il y a des jours, bah, faut. Puis alors, bon, alors l'avantage, c'est que là, il te voit, toi, à distance. Il te voit pas physiquement, parce que je pense qu'il y en a, ils chercheraient moins de noises, hein, s'ils te voyaient physiquement, parce que t'es quand même impressionnant, etc. Je parle vraiment physiquement, hein, parce que il faut le dire aux auditeurs, c'est que t'es probablement l'invité du podcast qui est le plus proche géographiquement de moi. Hein, parce que je suis passé encore devant chez toi ce matin et je passe devant chez toi quasiment tous les jours, ce qui me fait bien rire et tout et comme ça. Et pourtant, on est par Skype, etc. Parce qu'on est en plein confinement. Toi, t'es en confinement, nous on est en confinement, même si Macron a annoncé qu'on était plus confiné. Je sais même pas, j'ai même pas regardé l'allocution officiellement. Mais ce matin, je rigolais, je disais, on passe tous les jours devant chez lui quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire par là, c'est que on imagine, tu vois, les gens ils s'imaginent une vie, tu vois. C'est pour ça que je te posais la question de comment tu t'organises, etc. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, je sais pas, ils doivent imaginer aussi que chez toi c'est plein d'écrans, que ça clignote dans tous les sens, ou que j'en sais rien, tu vois. Et t'as pas des légendes, ils te disent comment ils imaginent que tu vis en fait.
Je sais pas. Après, il y a des gens qui me connaissent bien. Ça peut être un peu flippant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me lisent depuis des années, qui me suivent sur Twitter, qui ont déjà discuté un peu avec moi. Et en fait, comme je partage beaucoup de trucs, que ce soit sur Instagram, en gros, si tu me suis un peu sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, le blog, maintenant Twitch, et surtout Twitch, là, les gens ont une bonne construction mentale de qui je suis. Et ça peut être flippant parce qu'il y a des gens, des fois, que je rencontre dans des conférences, qui me posent des questions. Et je me dis, mais comment tu sais ça, en fait? Mais en fait, ils le savent parce que je le partage, hein, il n'y a pas de. Voilà, donc c'est quelque part c'est de ma faute, mais voilà, mais mis bout à bout, toutes ces choses-là, ils arrivent à avoir un portrait assez fidèle de moi. Après, oui, c'est vrai que les gens, la plupart, hein, ont une image un peu faussée de ce que je fais, de moi, voilà, parce qu'ils s'arrêtent juste à l'aspect superficiel de mes quelques tweets un peu énervés ou de mon site, ou voilà, donc ça va pas, voilà, ils vont pas chercher midi à 14h, donc. Et la plupart des gens aiment bien ranger les autres personnes dans des cases. Donc voilà, j'ai plein de cases. Enfin, je pense que les gens me mettent dans plein de cases différentes. Donc voilà, mais c'est pas, faut, je m'en fous en fait, ça me gêne pas plus que ça, quoi.
Oui,
Voilà.
et puis toi, t'as toujours fait le choix finalement de tout ranger dans la même case en fait. C'est ça qui est. C'est des discussions qu'on a eues, tu sais, je me rappelle dans le passé, on avait discuté de ça. Est-ce qu'il faut avoir
Ouais.
plusieurs sites ou des choses comme ça? Toi, t'as fait un choix finalement, c'est tout rentre dans Corben, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est difficile pour moi de tout séparer, en fait. J'ai déjà essayé de lancer des projets à côté, des trucs sous d'autres noms, etc. Mais en fait, ça m'intéresse pas. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est mon blog, c'est mon site, c'est mon espace. Monter d'autres trucs à côté, ça m'ennuie assez vite, en fait. Je l'ai déjà fait, hein, je l'ai encore fait récemment. Voilà, c'est pas. Je sais pas, j'y arrive pas, quoi. Donc finalement, là, l'idée, c'est de tout concentrer, on va dire, sous la même marque, hein, sous le même nom. Même si après il y a différents canaux de communication, quelque part le point central ça reste le blog.
Et d'ailleurs, même ton livre, hein, je vérifie, il est signé Corben, hein, il est pas signé de ton nom, il est vraiment signé Corben, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que voilà, les gens me connaissent sous ce pseudo, donc je me suis dit autant, tu vois, autant utiliser ce pseudo, il est quand même plus connu que mon vrai nom.
Oui. D'ailleurs, le livre, je trouve que c'est un truc qui est intéressant parce que maintenant, au début, tu l'as sorti encore en auto-édition, tu as fait des systèmes d'impression et maintenant, t'as un éditeur, un vrai éditeur ou ça se passe
C'est
comment?
ça. Ouais, en fait, je l'ai sorti avec un système d'auto-édition qui s'appelle LibriNova. Donc en gros, j'ai payé un petit forfait, ça m'a donné accès à leur plateforme, etc. Donc j'ai distribué le livre comme ça sur les plateformes, parce que j'avais pas envie de me faire chier à créer un compte Amazon, un compte Fnac, un compte Cultura, enfin je sais pas quoi. Donc du coup, je suis passé par eux. Et bah, ils ont tout géré, donc voilà. Et ensuite, après, un des avantages de passer par ces plateformes, c'est qu'en fait, il y a une espèce de plateforme d'éditeur derrière. Donc les éditeurs un peu regardent un peu ce qui sort en auto-édition bah, si ça les intéresse, contactent l'auteur au travers de LibriNova. Et donc voilà, donc après, ils m'ont trouvé un éditeur en fait. Et maintenant, j'ai un vrai éditeur qui a fait une vraie mise en page, qui a fait un truc. Voilà, parce que le premier, la couve, c'est moi qui l'avais faite, quoi. Mais bon, elle est pas si dégueu que ça. Mais bon, après, ça c'est. Voilà, il y a eu un vrai graphiste qui a bossé dessus. C'est en couleur, enfin, c'est plus sympa, quoi.
Ouais. Alors c'est intéressant LibriNova d'ailleurs parce que ils le disent hein, que ça permet à des auteurs de signer un contrat d'édition, etc. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture de livres? Il me semblait que tu écrivais quelque chose d'autre, non?
Ouais, j'ai essayé, j'aimerais bien écrire un jour un roman, mais je sais pas, j'arrive pas. J'ai pas le déclic, j'ai pas le truc. Là, en fait, si tu veux, le livre sur l'addiction au téléphone portable, c'est un peu comme un tuto, en fait. Je l'aurais fait sur le site, je l'aurais fait sur mon blog, si tu veux. Donc c'était. Là, je me suis dit, j'ai jamais parlé de ce sujet sur le blog. J'aurais pu le livrer tel quel dans un article. Mais je me suis dit, je vais l'étoffer, je vais faire un truc plus gros et je vais en faire un bouquin parce que j'ai toujours rêvé de faire un livre. Donc autant profiter de ça pour faire un livre. Après un roman ou ce genre de choses, j'aimerais bien. Enfin, si tu veux, l'idée me plaît, intellectuellement parlant, mais je sais pas, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, j'ai l'impression d'être mauvais, que ça sonne faux, de pas avoir. Enfin voilà, je sais pas bien faire ça. Donc voilà, on va dire que j'ai commencé par un truc facile, quoi. Mais après, je sais pas si j'en ferai un jour, mais en tout cas, je suis content, j'ai sorti mon bouquin. Voilà.
Ouais, ça, on veut dire que c'était une bucket list des choses à faire
C'est
dans ta
ça, ouais.
vie. Le bouquin, c'est fait. Le potager, c'est fait. Tu sais faire du pain aussi, parce que là, on voit tes baguettes, etc. C'est impressionnant, n'empêche, au niveau du pain, les progrès. Parce qu'au début, tu faisais du pain dans une cocotte, maintenant, ça ressemble à du pain de boulanger. On a l'impression que tu mets même la farine dessus, qu'elles sont façonnées comme. Et je me dis, mais ça y est, il a ouvert une boulangerie, c'est pas possible. Et ce matin, donc, c'est pour ça qu'on a vérifié. Non, il n'y a pas de panneau boulangerie devant chez toi. Donc, on dit, bon,
Non.
c'est pas ça. T'as fait. Alors j'avais un truc aussi, tiens, je me rappelle un truc, je sais pas où t'en es dans tes efforts de sport, parce que alors moi j'ai le changement aussi physique, on parlait tout à l'heure du physique, mais t'as fait au niveau du sport, t'as fait des, je sais pas combien d'heures t'as passé dans une salle de sport, mais c'est impressionnant quand même.
Bah, en fait, c'était toujours pareil, tu vois, c'était par rapport au stress, en fait. Donc, le sport, bah, je me suis inscrit à la salle de sport. Alors, j'y suis allé un petit peu au début. Après, il y a eu un moment où j'y suis plus allé. Puis après, j'y suis retourné. Et un peu plus intensivement, mais intensif, ça reste quand même très tranquille, hein. C'est une heure de vélo. Enfin, je fais pas de crossfit, hein. C'est du vélo, du tapis de marche. Je cours même pas, hein, sur le tapis. Je marche vite, quoi. Tu vois. Enfin, je fais des trucs à la cool, quoi. Mais parce que j'ai pas envie de faire de gros efforts physiques, ça m'intéresse pas. Bon, je transpire un peu quand même, mais voilà. Et l'idée, c'était, enfin, le coach à la salle de sport me dit, il faut venir 3 fois par semaine, donc 3 fois 1 heure par semaine. Bon, bah voilà, mais c'est ce que j'essaye de faire, on va dire. C'est un peu 3 fois par semaine, c'est mon minimum, si tu veux. C'est ce que j'essaye de faire. Mais en réalité, comme souvent, je suis parti, je vais à Paris, j'ai des conférences, des choses à gauche et à droite, je peux pas non plus y aller tout le temps. Donc je me suis dit, bon, on va maximiser le truc, je vais essayer d'y aller tous les jours. Alors tous les jours en semaine, hein, pas le week-end, mais j'y vais tous les jours. Donc j'y vais. Donc une bonne semaine, c'est 5 heures de sport par semaine, quoi. Donc après, il faut se motiver. Hein. Des fois, j'ai pas envie. Voilà. Après, je bouquine. Hein. Tout le monde écoute des podcasts ou regarde des films sur son téléphone à la salle de sport. Moi, je bouquine. Donc je colle mon Kindle sur la machine et puis je lis en même temps. Donc quelque part, c'est bien parce que en fait, j'aime pas ça, le sport. Hein. C'est pénible, ça me saoule. Mais le fait de lire, mais j'adore lire. Donc du coup, ça me permet aussi d'avoir un temps où je peux bouquiner, réfléchir, explorer des nouvelles choses que je connais pas. Plus effectivement, plus dans ton rayon, tu vois, de développement personnel, parce que ça passe un peu mieux quand tu fais du sport qu'un roman où voilà, là tu peux réfléchir, comme tu es déjà dans une démarche un peu de prendre soin de toi, bah, tu complètes ça avec autre chose. Mais là, avec le confinement, ça m'a tout foutu par terre, parce que du coup, enfin, avec le Covid-19, ça m'a tout foutu par terre, parce que voilà, les salles de sport ont fermé. Donc là, j'ai pas fait de sport depuis le mois de bah, depuis fin février, en fait. Donc voilà, j'ai le vélo elliptique dans le bureau, mais je monte pas dessus, ça me saoule. Donc voilà, mais j'espère reprendre peut-être en septembre, on verra. Mais bon, ça va, le poids se maintient grâce au jeûne intermittent.
Ah, parce que t'es un adepte du jeûne intermittent aussi. Bon, on va tout savoir alors. Mais ça, t'en as pas parlé de
Ouais.
ça.
Non, j'en ai pas trop parlé parce que les régimes, c'est compliqué. Tu sais, chacun a sa religion. Les régimes, c'est comme les religions.
Ouais.
Mais je vois pas ça comme un régime. C'est juste pour maintenir un poids, on va dire, un poids normal, quoi. Ça m'a permis de perdre du poids au début. Donc, ça, plus le sport, ça fait fondre assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai fondu aussi, on va dire, assez vite. Et là, ça me permet de maintenir, en fait. C'est-à-dire, je peux faire des excès, je peux manger comme un petit cochon, etc. Je suis gourmand quand même. Mais du coup, ça m'a permis après de garder le même poids et pas reprendre, en fait. Tu vois, par exemple, sur le confinement, là, j'ai repris 6 kilos. J'avais un peu relâché le jeûne intermittent. Et là, je m'y suis remis depuis le début de la semaine dernière. J'ai déjà reperdu 2 kilos, donc il ne me reste plus 4 à perdre. Et encore, je ne me suis pas pesé là ce week-end, donc je ne sais pas, peut-être que ça sera un peu moins. Mais voilà, ça permet de tenir. Et puis, même au niveau santé, je trouve ça mieux. Ça permet de. Enfin, je l'ai vu, en fait, quand je tombais malade, moi, c'était la cata. Hein. Je chope un rhume, mais je le garde 10 jours, quoi. Et je suis au lit, et je suis fatigué, j'en peux plus. Là, en une journée et demie, 2 jours, c'est plié, quoi. Donc, je suis guéri, quoi. Donc, ça permet de renforcer aussi pas mal les défenses immunitaires. Donc, ça, c'est cool, quoi.
Oui, alors jeûne intermittent, tu pratiques quoi? Du 16h en fait, hein, du 16h de jeûne, quelque chose comme ça tu fais?
Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, c'est même un peu plus, hein, je crois que ça va être 18h. Mais ouais, en gros, j'arrête de manger le soir, quoi. Et puis, je reprends le lendemain vers 16h, 17h, quoi.
Ah
Donc,
oui.
je me fais un bon petit goûter. Et puis après, je remange le soir. Voilà.
Ah ouais, d'accord, oui. Alors effectivement, t'es plus sur un format de 18h, 16-18h. Moi, tu vois, j'étais très réticent sur le jeûne intermittent. Je disais, parce que ça, moi, quand je mange pas le matin, après j'ai faim toute la journée, tu vois, j'ai envie de manger du chocolat, des gâteaux, etc. Et je dis ça, mais en même temps, je fais du jeûne intermittent tous les lundis depuis quelques temps. C'est un test, maintenant que comme ma femme fait elle est en formation de naturopathie, et ça fait partie des choses qu'ils testent en
J'ai vu
naturopathie,
ça,
etc. Bon, donc on fait du jeûne intermittent, voilà. Alors, il y a des jours,
ouais.
ça passe plus ou moins bien. Ce matin, c'est passé super bien. J'ai même fait une séance de sport à la fin de mon jeûne intermittent. J'ai fait mes petites séances de pompe, etc. Et pendant longtemps, j'ai dit jeûne intermittent, ça va tout me détraquer, parce que ça me donnait des envies de manger. Tu vois, l'après-midi, j'avais envie de manger du chocolat, du sucre, des gâteaux, enfin, tout ce qui passait. Et je disais, ça sert à rien de faire du jeûne intermittent si le soir, si l'après-midi, c'est pour se goinfrer. Mais c'est vrai qu'après, peut-être que finalement, en passant par un bon petit goûter ou quelque chose comme ça, après, le reste de la journée, enfin, il reste pas grand-chose où t'as pas d'occasion de grignoter jusqu'au repas du soir. Et donc, peut-être, effectivement, ça peut être une
Ouais, bah
astuce.
après, l'idée c'est de. Enfin, moi je me prends pas trop la tête, hein. Comme je te dis, je suis gourmand, etc. Donc, effectivement, quand t'as 4 repas par jour, c'est un peu compliqué de manger que des saloperies parce que du coup, t'as pas un repas équilibré, donc tu vas être malade au bout d'un moment. Moi, l'idée c'était vraiment de manger équilibré, mais aussi, pourquoi pas, enfin, tu vois, justement de manger des chips ou des saloperies l'après-midi, mais du coup, ça te déculpabilise, quoi. Donc, ça va peut-être te ralentir un peu. Ta perte de poids, hein, ça va te freiner un petit peu, mais ça va pas te faire regrossir. Donc j'ai aucun scrupule là, tu vois, à 16h30, de me faire une bonne plâtrée de pâtes avec une blinde de gruyère râpée dessus, et voilà, et après de remanger un truc un peu plus équilibré le soir et de la salade, ce genre de truc. Mais comme les repas sont ramassés, sont concentrés un peu sur la même période de temps, bah ça reste plus efficace que de faire, on va dire, l'équivalent en termes de repas, finalement de manger la même quantité, mais étalé sur toute la journée, quoi.
Ouais. Et toi, t'es pas du tout dans une recherche parce que de temps, tu vois, d'efficacité du temps. Parce qu'il y en a qui font ça pour en disant, oh, je passe moins de temps à manger, tu vois. C'est sur le plan de la productivité, ça va plus vite si je prends pas de petit déj le matin, tu vois. Toi, c'est pas du tout t'as pas pensé à ça,
Non,
toi.
non, 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 mais bah j'y ai déjà pensé avant, mais en fait ça, enfin. C'est pas un truc que je recherche spécialement, non, non. Après, c'est sûr que ça me fait gagner du temps, hein. Le midi, je mange plus, je me prends plus la tête, j'ai plus de pause. En fait, faut savoir qu'avant, quand je mangeais midi, j'étais parti pour 2 heures de pause, quoi. C'est-à-dire que, non, mais tu vois, tu te fais la bouffe, tu manges, tu finis ta série Netflix, donc déjà, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Après, tu vas te taper une petite sieste, et voilà, t'as 2 heures qui sont passées, donc déjà, t'as 2 heures grillées dans la journée. Alors que si tu taffes non-stop jusqu'à 16h, 17h, bon, bah voilà, t'as quand même maximisé un peu plus ta journée. Mais finalement, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, ce temps que je perdais le midi, et où je jouais un peu les prolongations le soir pour un peu le rattraper, c'était pas très efficace parce que le soir, déjà après le repas, t'as le coup de barre, t'es fatigué. En fin de journée, t'es fatigué aussi parce que bah, tu prolonges un peu la journée. Voilà. Là, j'arrête mes journées plus tôt, j'ai pas le coup de barre du midi, donc quelque part, je me sens mieux et je peux enchaîner plus, quoi. Donc, c'est plus efficace. Si tu veux, c'est le même temps, mais j'ai plus d'énergie, quoi.
Ouais. Et c'est exactement ce que je recherche, hein, moi aussi, l'énergie. Alors après, bon, sur les tactiques de midi, on pourrait rentrer. Mais là, après, on va rentrer, tu vois, dans un, on va changer de podcast. On va se retrouver dans mon podcast de sport et tout. Et les gens vont se perdre et tout. Alors, on va arrêter à ça parce qu'après, je vais te dire, il va falloir aller marcher plus souvent, etc. Est-ce que tu as constaté quand même, tu vois, que ce jeûne intermittent, ce sport, ce rythme, ça te donnait plus d'idées, tu vois, pour créer, pour écrire, plus de facilité, plus de... Toi, t'es plus clair dans ta tête quand t'as besoin d'exprimer quelque chose ou est-ce que t'as remarqué ces choses-là?
Ouais, j'ai remarqué ces choses-là, ouais. Ouais, bah notamment, c'est vrai que le sport, enfin voilà, aller à la salle de sport, être sur le vélo, lire un bouquin en même temps, bah ça te permet de cogiter, quoi. Donc du coup, comme t'es plus dans le rush, en fait, t'es plus dans l'action, à faire des choses, à bosser, à répondre à des coups de fil, à répondre à des mails, t'es plus dans l'action, là, t'es une espèce de on va dire de no man's land enfin tu vois il y a voilà t'es entre toi et ton bouquin, t'as rien d'autre à faire que pédaler sur ton vélo et lire ton livre. Bah des fois le bouquin je le lis pas trop en fait, mais je laisse mon esprit vagabonder, ça me donne des idées, je pense à des trucs et ouais j'ai plus de temps pour réfléchir, parce que c'est vrai qu'à la maison entre le boulot, les gosses, etc, t'as pas le temps de te poser, de cogiter. Voilà, si en plus t'as envie de te reposer, t'as plus de cerveau, tu te mets une série Netflix, c'est pas pour réfléchir encore derrière. Donc c'est bien effectivement de prendre ce temps de sport et ouais plus d'énergie quoi, plus d'idées. Des fois il y a des idées qui me pètent dans le cerveau au sport et limite j'écourte un peu la séance pour vite rentrer et faire ce qui m'est arrivé dans la tête à la salle, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais te dire parce que en moi il m'arrive des trucs quand je vais courir. Il y a des fois, tu vois, j'écoute des podcasts ou même des fois je mets rien, tu vois. Et puis d'un coup je m'arrête, vraiment, et je le dis vraiment parce que les gens vont me prendre pour des fous. Je m'arrête et je dis, oh, wow, cette idée, il faut que je la note. Tu vois, mais toi sur ton vélo, t'as un Kindle, toi.
Ouais.
T'as pas de fonction bloc-notes ou je sais pas comment ça marche dedans. Tu pourrais pas noter dedans.
Non, 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 enfin, si, tu peux noter dedans, prendre des notes, etc. Je mets des trucs. Non, sinon, je retiens dans ma tête, quoi. Mais j'essaye de ne pas prendre le smartphone quand je suis à la salle de sport. Mais ça m'est déjà arrivé quand j'ai un objectif. C'est-à-dire quand je me dis, là, pendant la salle de sport, je vais réfléchir à ci ou ça. Voilà, c'est mon objectif. Je prends le téléphone pour prendre des notes, en fait, avec. Donc, j'ai quand même le bouquin ou j'ai quand même les écouteurs avec un podcast ou un truc, s'il faut, parce qu'il y a le téléphone, mais du coup, je prends des notes aussi en même temps.
D'accord. Alors tiens, ça va intéresser, je pense, les auditeurs. C'est-à-dire que tu te programmes des fois, tu te dis là sur l'heure de sport, je vais réfléchir à ça. Et puis tu, c'est quoi? C'est de, tu lances la machine en fait, tu lances un peu le cerveau.
Ouais, c'est un peu ça. Par exemple, tu vois, j'ai lancé là, il n'y a pas très longtemps, des formations.
Ouais.
Bon, pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Enfin, il y en a deux autres qui sont tournées, mais j'ai pas finalisé encore. C'est un peu dur à coucher, parce que c'est beaucoup de boulot. Mais par exemple, voilà, formation, bah, je pars de zéro. Qu'est-ce que je peux proposer? Qu'est-ce que je mets comme contenu, etc. Donc, je réfléchis un peu. Ou alors, comment faire une formation? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vais écouter peut-être des e-books là-dessus, ou je vais lire un truc là-dessus. Et puis, du coup, je vais prendre des notes pour rien oublier sur. Un peu les étapes, etc., quoi. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais ça peut se décliner sur plein d'autres choses.
D'ailleurs, c'est une bonne question, cette histoire des formations, parce qu'effectivement, j'ai vu que tu avais lancé tes formations. La première, c'est sur monter un serveur, hein, je crois,
Non,
ou...
la première, c'est sur le choix d'un nom de domaine. Alors ça
Oui.
peut paraître un peu facile, mais en fait, il y a plein de petites techniques, de trucs, d'erreurs à pas faire, etc. Même sur la sécurisation de son domaine, etc. Et le choix de l'hébergement, parce qu'il y a beaucoup, on pose souvent la question, en fait, il y a beaucoup d'hébergeurs, ils ont des offres absolument, enfin très complexes et beaucoup de choix, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre, à quoi ça correspond, etc. Donc j'ai fait un peu ça, mais c'était un peu la première pour me lancer. Pour moi, elle était un peu facile, entre guillemets. Après, j'ai des trucs plus techniques, mais c'est plus dur parce qu'en fait, j'ai envie de tout couvrir, tu vois, j'ai envie de tout explorer, tout couvrir. Et il faut quand même que ça soit digeste et il faut que ça soit précis. Donc, je peux pas m'étendre partout. Voilà, donc après, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu compliqué les formations, mais je sais plus ce que tu me demandais, mais bon,
Mais
voilà.
pourquoi tu te lances? Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu t'es lancé à faire une formation comme ça? Est-ce que c'est pour tester? Est-ce que c'est parce que tu te dis, oh, j'en ai marre, il y a trop de questions toujours sur le même sujet, autant qu'ils achètent là, qu'ils payent le truc? Enfin, c'est quoi la logique en fait?
Bah, d'abord, c'est une envie parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Moi, j'aime bien explorer des nouvelles choses. Voilà, quand j'ai jamais fait un truc, ça m'attire en fait. Tu vois, j'ai jamais fait de musique, j'ai envie de faire la musique. J'ai jamais fait de Twitch, maintenant j'ai une chaîne Twitch. J'ai jamais fait de montage vidéo, bah maintenant je fais un peu de. Enfin, je monte mes petites vidéos moi-même. Enfin, voilà, en fait, moi, dès qu'il y a un truc que j'ai jamais fait, j'aime bien aller essayer, quoi. Donc, déjà, c'est juste. Enfin, la première raison, c'est ça. Ensuite, la deuxième raison, elle est, c'est juste diversifier les sources de revenus, en fait. Parce que le site, moi, je vis avec la publicité sur le blog. Et la publicité, ça peut être un peu compliqué, surtout en ce moment. Donc, l'idée, c'est de penser à l'avenir, de se dire, bon, voilà, on ne sait pas comment ça sera fait plus tard. Donc, évidemment, de diversifier les sources de revenus. Et puis aussi, parce que je me suis dit que les gens étaient pas forcément. On va dire très à l'aise tout le temps avec les technologies, pas très à l'aise avec comment on fait un site, en fait les trucs de base, si tu veux. Voilà, comment on monte un site, comment on fait. Alors, il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, mais dès qu'on se retrouve confronté à la technique, ça devient compliqué parce que tu peux regarder plein de vidéos YouTube, tu peux regarder plein de tutos, lire plein de livres, etc. Tu n'auras pas tout de bout en bout. L'idée, c'était de proposer un truc qui un peu te prenne de zéro, en fait, et t'accompagne jusqu'à ce que tu aies ton site. Et en fait, quelque part, pas que tu sois comme moi, mais que tu aies un peu les mêmes. Enfin, que tu puisses avoir ton espace sur Internet, créer tes choses sur Internet et être un peu indépendant, voilà, avoir ton. Voilà, et pas forcément dépendre des plateformes, de Facebook, de tout ce genre de choses. Où c'est facile aussi de faire sa page, mais quelque part, tu es quand même dépendant, tu n'es pas indépendant. Donc, tu es dépendant à la politique, on va dire, à la politique de contenu de Facebook. Voilà, si tu publies un truc qui ne leur plaît pas, ils peuvent te censurer, tu peux perdre ta page, tu vois, ce genre de problématique, quoi. Donc, l'idée, c'était de redonner un peu Internet, enfin, de prendre ça sous l'angle de Internet, c'est un truc qui appartient à tout le monde a le droit d'être sur Internet, tout le monde peut créer des choses sur Internet. Tout le monde a des compétences, a des connaissances, voilà, qu'il peut partager et même gagner de l'argent avec. Mais les gens sont freinés par le côté un peu technique, un peu relou de se créer un site, de se prendre un nom de domaine, de mettre son site en ligne, de jouer avec WordPress ou autre chose, de sécuriser son serveur pour pas se le faire péter, etc. Et donc je trouvais ça intéressant de prendre cette problématique de A à Z pour expliquer tout ça aux gens, quoi.
Oui, et puis
Voilà, mais
alors,
c'est un projet en cours, c'est pas fini
ouais, et
encore.
puis c'est nécessaire en fait, parce que moi je fais beaucoup de cours, enfin je faisais jusqu'à maintenant beaucoup de cours à la fac, et je me suis rendu compte à quel point les jeunes, ce qu'on appelle les digital natives là, et j'ai préparé un post LinkedIn et je l'ai pas posté parce que je sais qu'il va y avoir plein de commentaires, tu vois, les commentaires derrière, je me suis dit, ça va démarrer, tu vois, un talent, on parlait des, ces trous, les réseaux sociaux, ça crée un espace-temps en fait, c'est-à-dire que tu mets un truc. Et puis d'un coup, il y a plein de réponses, t'attends les réponses, t'as besoin de répondre aux messages, etc. Enfin bref, et donc j'ai dit, je posterai un autre jour. Et je dis toujours, les digital natives n'existent pas. Très clairement, on dit que c'est des digital natives, mais ça n'existe pas. Parce qu'en fait, ils sont comme les autres, ils sont nés sans ordinateur, et il faut leur apprendre ce que c'est qu'un ordinateur, comment marchent les trucs, etc. Et j'ai des étudiants qui ont 20 ans, tu vois, et ben je me suis rendu compte, ils savent pas acheter un nom de domaine. Ils n'ont même aucune idée de savoir comment tu achètes un nom de domaine. Alors que ça nous paraît un truc qui semble tellement évident, tu vois, parce que Internet, ça existe depuis 40 ans. Enfin, les noms de domaine, je sais pas en quelle année les premiers noms de domaine ont été là, mais c'est répandu depuis tellement longtemps qu'on a l'impression que tout le monde sait acheter un nom de domaine, que c'est facile d'aller chez OVH ou je sais pas qui. Et donc finalement, c'est vrai que tu réponds par là à des problèmes. Il y a des gens pour qui c'est effectivement très compliqué cette histoire-là.
Bah oui, c'est un truc. En fait, les digital natives, alors je sais pas si ça existe, ça n'existe pas, mais nous, on s'est un peu. Enfin, toi, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'ai eu Internet entre les mains, je me suis un peu débrouillé, quoi. Tu vois, j'ai fait un peu. Voilà, et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc, en fait, si tu voulais avoir ton site, il fallait que tu te débrouilles, quoi. Donc, on s'est débrouillé. Maintenant, tu veux faire un site, tu fais pas de site, tu fais une page Facebook, donc tu prends pas la tête et tu as quand même ton espace d'expression en ligne. Voilà, mais ça soulève après plein d'autres problèmes. Donc voilà, donc les gens, on va dire maintenant, les digital natives, comme tu n'aimes pas les appeler, ont plein d'outils. On va dire facile à utiliser, mais ils savent pas vraiment faire les choses, on va dire par eux-mêmes, quoi. Et avoir leur espace, on va dire au sens, sans reposer sur un tiers, quoi, sans reposer sur une boîte tierce. Voilà, c'est
Oui.
un peu le problème.
Alors moi, c'est une anecdote que je raconte, hein. Mon premier site internet tenait sur une disquette. Il n'a jamais été mis en ligne. C'était le site de l'EUT. Le responsable informatique nous avait dit, non, non, mais ça c'est trop dangereux, on peut pas le mettre sur les serveurs de l'EUT, de l'université, etc. Donc bon, tu vois, c'était le 95, 96, dans ces années-là. Donc, effectivement, on n'avait pas ces Facebook, Twitter. On codait le HTML sur le bloc-notes, hein, et on faisait des GIFs animés sur GIF Animator, truc par étape, etc., tu vois, enfin. On passait des journées, des heures pour arriver à créer une liste à puces, pour arriver à mettre la structure, pour faire des trucs qui sont maintenant en quelques lignes. Et c'est vrai que on voit ces outils-là. C'est vrai que c'est devenu tellement simple de publier sur du contenu sur Internet, mais sur des plateformes, que on se dit mais pourquoi tout le monde le fait pas ? Et d'ailleurs, ça reste, tu vois, pour moi un grand mystère. Alors, je sais pas, peut-être toi t'as une théorie, mais pourquoi, tu vois, on reste toujours sur cette notion. Tu sais, on dit toujours qu'il y a que 1%, entre 1 et 10% des gens qui publient vraiment du contenu. Pourquoi, malgré tous les outils qu'on a, on a autant de gens qui finalement restent extrêmement passifs, tu vois, par rapport à tout ça ?
Bah, je pense pour plein de raisons. D'abord, la question de temps. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Faut quand même, c'est un peu du luxe, hein, de se poser devant l'ordi et de se dire, tiens, je vais partager des trucs, etc. Après, il y a aussi l'envie, tout simplement. Il y a des gens qui aiment partager. Et d'autres, ça les intéresse pas. Donc, il y a des gens qui aiment. C'est même pas des questions de gagner sa vie ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Y en a qui ont le virus du partage, d'expliquer, de vulgariser, de montrer même ce qu'ils savent faire. Hein. Alors, ça peut être pour récolter des likes, comme ça peut être pour essayer, je sais pas, de changer le monde ou de faire découvrir une passion à d'autres gens. Enfin, peu importe le domaine, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup. Et puis aussi, même quand tu as un peu cette passion, d'expliquer, même quand tu as envie, souvent il y a plein de gens qui vont lancer leur truc et au bout de deux semaines ils vont se décourager parce qu'en fait ça prend du temps, ça peut être compliqué, il faut savoir faire plein de métiers à la fois, hein, faut pas juste savoir écrire ou filmer, il faut aussi savoir monter, faut savoir gérer un serveur, faut savoir faire plein de choses, donc ça peut être un peu compliqué. Ça demande quand même beaucoup de choses, quoi. Et puis après, on peut mettre sur le tapis, hein, ensuite, gérer aussi les gens, hein, qui viennent commenter, gérer les gens qui... Ouais, mais il y a ça aussi, donc comment on interagit avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça peut être un peu angoissant aussi de se dire, tiens, de s'exposer, en fait, de se dire, moi, je suis dans ma bulle, personne ne me connaît, voilà. Et là, d'un coup, j'attire un peu, on va dire, les spots vers moi. Ça peut être un peu flippant. Moi, ça peut me faire flipper, mais j'essaye de pas y penser. Mais voilà, il y a une espèce de forme d'inconscience quand même de s'exposer, de montrer sa tête, sa voix, de raconter un peu ce qu'on fait, etc. Alors qu'en face, on n'a aucune idée de qui est en face, quoi. On ne sait pas qui est en face. Donc, c'est pour la plupart de parfaits inconnus. Et puis surtout, des questions de légitimité. Pourquoi moi, je m'exprimerais alors qu'il y en a d'autres qui sont mille fois... meilleur que moi, mille fois plus compétent, mille fois plus dans le truc que moi, peu importe le domaine, quoi. Donc voilà, c'est pas, puis ça demande du taf, enfin c'est du boulot, quoi. Faut être passionné, quoi. C'est compliqué.
Oui, mais bon, d'un autre côté, après on construit les choses au fur et à mesure, etc. D'ailleurs, tu vois, là je suis sur ton compte Instagram, je vois ton fond, ton bureau qui petit à petit devient le parfait fond de YouTuber, Twitcher, streamer. T'es en train de, enfin c'est rangé, en plus c'est rangé. Il y a les petits l'ancien Mac avec un fond vert, etc. Enfin c'est.
Je me prends pas la tête en général. Il y avait tous mes livres en bordel, mais en fait les gens m'ont dit ouais ton fond derrière c'est le bordel. Donc j'ai dit bon ok je vais ranger, mais si tu veux, si personne me l'avait dit, j'aurais laissé comme c'est, tu vois. Après après je fais attention. Enfin ça vient pas forcément de moi aussi. Je reçois plein de conseils de gens qui m'aident, etc. La Twitch est extraordinaire parce que j'ai commencé le 26 mai, un peu parce qu'on m'a dit vas-y fais du Twitch. J'ai dit ouais, je vais tester, mais moi je joue pas aux jeux vidéo, je sais pas, j'ai rien à faire de plus, donc en fait je vais faire du Twitch, mais un peu comme ça, quoi. En gros, je vais bosser sur Twitch, quoi. Les gens jouent aux jeux vidéo sur Twitch, moi j'ai partagé ma journée de boulot. Donc ma journée de boulot elle est quand même sympa, c'est à dire que je teste des logiciels, on expérimente, j'écris mon article, etc. Donc les gens sont là, c'est cool. Et en plus, comme ils sont plus calés que moi en Twitch, du coup ils m'aident, tu vois, ils me disent bon, là faut que tu te fasses ci, faut que tu te fasses ça, faut des transitions sur ton OBS. Il y a un mec qui m'a fait des transitions, faut que tu ranges ton bordel derrière, faut que tu fasses ci, ça, machin. Donc ils m'ont vachement aidé là en fait depuis 2-3 semaines. Donc j'ai voulu un peu comme ça, quoi. Mais j'ai pas encore pris 5 minutes pour me poser en me disant comment être un parfait Twitcher. J'ai pas été lire les tutos, j'ai pas acheté de livres sur Twitch. pour lancer ma carrière de Twitch, quoi. Je me laisse un peu guider au fil du vent par ce que me recommandent les gens, quoi.
Oui, mais en fait, t'es dans l'expérimentation et c'est comme ça qu'on apprend. Oui. C'est-à-dire que le meilleur apprentissage, c'est finalement de faire les choses plutôt que d'essayer de tout apprendre et puis un jour on applique. C'est on commence par faire les choses, t'apprends au fur et à mesure des choses. Alors moi, c'est marrant parce que je vois ton vieux Mac là, je sais pas quel modèle c'est ce Mac, mais t'as dessus t'as collé un bout de verre pour faire d'incrustation, des choses comme ça. Donc ouais. C'est des astuces que t'en donnais les gens qui regardent tes lives.
Ah bah le bout de verre en fait non, enfin le ouais c'est une feuille verte que j'ai collée dessus pour avoir un espèce de fond vert. En fait ouais on discutait, on m'a dit ouais ça serait bien que tu puisses mettre un truc derrière dans l'écran quoi. Donc du coup j'ai réfléchi à comment faire, j'ai dit bon je vais essayer avec un fond vert. Donc j'ai essayé en live hein, tu vois, j'ai coupé un truc vert, enfin une feuille, je l'ai mise, ça marchait à peu près etc. Puis bon après j'ai réfléchi on va dire offline pour améliorer ça pour que ça soit un peu plus qualitatif mais ouais.
D'accord. Alors sur Twitch, en fait, tu dis finalement c'est quoi, ta journée, tu te branches dessus, tu dis voilà, je vais travailler, puis les gens ils viennent te voir, ils discutent.
Ouais, c'est ça. En fait, bon après, j'essaie d'avoir un petit programme, ça reste léger. Hein. C'est-à-dire que le matin, je fais pas mal de veille, mais je commence comme je te disais à 5h. Donc voilà, ce matin, j'étais un peu défoncé, j'ai pas fait grand-chose, mais des fois, j'écris 1, 2, 3 articles le matin. Donc la veille, on papote tranquille. Mais c'est vraiment un truc. Moi, je le vois un peu comme une machine à café, mais comme je faisais déjà sur Twitter, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai Twitter, les gens viennent me parler, je réponds, etc. Mais Twitter, maintenant, l'ambiance a bien changé. Et du coup, finalement, je retrouve ça un peu avec Twitch. Donc, j'ai un peu délaissé Twitter là, ces derniers temps. Et Twitch, c'est sympa parce que les habitués viennent, on discute, je leur pose des questions, je leur raconte mes conneries, on teste des trucs, ils m'envoient des liens, on teste. Voilà, enfin, on parle de sujets, d'autres, en fonction de ce que j'affiche sur mon écran. Et quelque part, je retrouve un peu ce côté que j'avais au début avec Twitter, c'est-à-dire une machine à café, où les gens discutent, en fait, tout simplement. Parce que moi, je bosse à la maison, j'ai pas de collègues, enfin, j'ai des collègues, mais ils sont pas là avec moi. Et je déteste en plus les chats, les trucs comme ça. Donc, écrire, etc., déjà, c'est. Voilà, j'écris sur mon site, donc ça prend du temps. Si en plus, je dois surveiller un IRC, un Skype, ou je sais pas quoi, pour parler avec plusieurs personnes en même temps, pour bosser ou je sais pas quoi, ça me saoule. Là j'aime bien ce côté là parce que je lis les messages qui défilent sur un de mes écrans et je réponds à l'oral, donc finalement ça prend pas de temps en fait, je parle, voilà. Moi je discute à l'oral, eux écrivent et voilà, c'est tout bénef pour moi, comme ça j'ai ce côté un peu sympa où je peux interagir avec d'autres êtres humains qui sont en plus très intéressants et puis je me prends pas la tête hein, les relous je les banne assez rapidement maintenant, donc du coup voilà. Ça reste très sympathique. On verra après comment ça évolue, hein, si on est de plus en plus et que ça commence à défiler très vite. Voilà, je mettrai en place d'autres choses pour que ça reste sympathique le plus longtemps possible. Après, peut-être que finalement, au bout d'un moment, je délaisserai le chat et puis je ferai que du stream classique, sans lire ce que disent les gens en live.
Non, mais alors c'est super intéressant parce que tu vois, moi, ça fait longtemps que j'ai un compte Twitch. J'ai dit tiens, je vais faire un petit live de temps en temps, mais j'étais dans la programmation de live et puis au bout d'un moment, je sais pas trop quoi raconter, tu vois. Et puis c'est vrai que le matin, j'aime bien ce côté aussi être dans la bulle, tu vois, qu'il y ait personne qui rentre. Mais c'est vrai que finalement, c'est une manière de faire rentrer les gens sans qu'il y ait vraiment de l'interruption, parce que j'ai presque envie de dire tu masques l'écran. Bon, ils peuvent pas taper à l'écran pour dire hey, je suis là, je t'ai posé une question, mais c'est presque un peu ça, quoi. Et finalement, tu le gères toi, c'est toi qui gères ce rythme-là et t'as pas une interruption qui est si importante que ça, en fait.
Ouais, non, ça va. Ouais, et puis c'est sympa parce que du coup, je me rends compte en fait de la valeur ajoutée dans ce que je fais en fait. C'est-à-dire que j'écris des articles, je teste des trucs et il y a des gens qui. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes, hein, c'est les habitués, mais je commence à reconnaître les pseudos et voilà. Mais qui me posent des. Qui en fait m'apportent des compléments en fait, tu vois, donc des nouveaux liens, des choses. Donc quelque part, là, en fait, je regrette presque de m'être privé de ça en fait parce que. Sur Twitter, ça arrive après coup, si tu veux, parce que les gens voient pas ce que je suis en train de faire. Donc, ouais. C'est quand je publie un article, les gens vont dire ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, moi, bon, bah, je peux l'intégrer dans mon article ou faire un nouvel article ou le zapper parce que j'ai pas le temps et puis j'ai déjà parlé du sujet, même si c'est pas exactement la même chose, la flemme. Alors que là, comme je suis en train de créer le truc en live devant eux, il me complète un peu le truc, je me dis ah ouais ça c'est pas con, c'est cool machin et tout, puis j'intègre en même moment où je crée mon truc en fait, donc quelque part ça m'apporte beaucoup là, je me rends compte là depuis 2-3 semaines que ça change un peu la façon que j'ai d'écrire, donc ça c'est bien, ça enrichit en fait.
Alors, c'est super intéressant ce que tu me dis parce que c'est exactement ce que je recherche, tu vois, parce que moi aussi, mon rêve, c'est d'écrire un livre. Bon, toi, tu l'as fait, tu as mis sur ta bucket list. Moi, j'ai des projets de livres qui dorment, là, qui s'endorment, etc. Et c'est vrai que finalement, ce serait une bonne idée, tu vois, de dire, bah, tiens, le matin, quand je vais faire ma session d'écriture, ma petite séance d'écriture, je pourrais le faire sur Twitch. Comme ça, les gens, je pourrais même leur montrer finalement en direct, hein, ce que, tout simplement, sur quoi je suis en train d'avancer, qu'ils pourraient faire des retours, me dire ce qu'ils en pensent, en fait, ce serait un truc à tester, tu vois. Alors là, d'un coup.
Ouais, mais je l'ai fait avec la musique par exemple. C'est-à-dire, il y a vendredi, alors pas vendredi, il y a 2 semaines, je me suis dit, tiens, on va se faire un petit challenge, on va faire une musique 8 bits. Tu sais, de la musique de Super NES,
Ouais,
quoi.
je l'ai
J'avais jamais
entendu,
fait ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que le matin, je me suis connecté, bah, toujours comme d'habitude, j'ai commencé à regarder des tutos en fait. Donc, on a regardé ensemble, moi et les gens qui me suivaient à ce moment-là sur la chaîne, des tutos sur comment faire de la musique 8 bits, voilà, des trucs qui passaient comme ça. Et puis, donc, j'avais une idée un peu plus précise. Et puis ensuite, bah, voilà, après, ça s'est greffé. Il y en a qui m'ont recommandé des plugins pour sortir vraiment du son, vraiment 8 bits pur. Puis après, on a fait le morceau. Ils me disent, ouais, là, trop de ci, pas assez de ça. Donc, on ajuste un peu. On structure le morceau. Tiens, ça serait bien si tu rajoutais un bruit de Super Mario à tel endroit. Donc, on l'a fait. Puis en fait, ça sonne super bien. Donc, je dis merci au mec qui a eu l'idée, qui d'ailleurs nous écoute là. Et voilà. Et donc, voilà, ça se fait un peu comme ça. Alors, je sais pas si je le ferai à chaque fois parce que j'aime bien aussi faire des trucs un peu. Être un peu par moi-même, faire des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Mais là, pour l'instant, c'est en assez petit comité pour que ça se passe bien, quoi. Donc, ouais, c'est sympa, quoi.
Ouais, c'est une autre forme de co-création. Et puis c'est vrai que tu dis tu travailles tout seul. Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit finalement, c'est que sur Corben, l'espace Corben, on va dire la marque Corben, on parle pas de tes entreprises dans lesquelles tu es. C'est
Oui.
quoi, t'es actionnaire, t'es fondateur, comment tu peux
Bah,
dire?
cofondateur et actionnaire, ouais.
Donc les autres entreprises, c'est quoi? Il y a quoi?
Bah, il y avait un moment Robic Jobs, mais là on est en train de fermer, malheureusement. Et puis maintenant il n'y a plus que. Enfin, en gros, j'ai arrêté tout, à part Yesuyak. Donc, il y a Yesuyak, qui est une plateforme de bug bounty. Donc, c'est de la cybersécurité. Et donc, moi, je ne suis pas dans l'opérationnel au quotidien, hein, mais voilà, je suis plutôt évangéliste, si tu veux. Donc, voilà, je fais les confs, j'interviens quand il faut. J'explique, mais à l'origine. Voilà, à l'origine, j'étais cofondateur, quoi. Donc, mon
D'accord.
associé, on était deux. Donc, on a démarré le truc à deux. Et puis après, ça a grossi, grossi, grossi. Et moi, voilà, après, quand ça devient trop gros, là, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, de gérer des gens, gérer tout ça, quoi. Donc, mon associé le fait très bien pour. Enfin, voilà. Et puis moi, je fais ma partie, quoi.
Ouais. Et donc finalement sur l'espace, on va dire Corben, la marque Corben, finalement tu gères ça tout seul, tout seul?
Ouais, je gère ça tout seul. Maintenant, je me suis entouré de plusieurs personnes, hein. J'ai quelqu'un qui développe. Voilà, je fais intervenir quand j'ai besoin. Donc, il gère la technique parce que quand tu dois après, enfin, je l'ai fait en fait depuis toujours. Hein. C'est moi qui gérais tout, le dev, le serveur, le machin. Mais ça m'a gonflé. Enfin, maintenant, ça me gonfle. Donc, j'ai quelqu'un qui fait ça avec moi. La publicité, comme c'est le nerf de la guerre pour financer toutes mes activités, j'ai quelqu'un aussi qui gère ça pour moi, parce que moi je déteste ça, hein. Négocier les tarifs, parler argent, parler machin, etc. Moi j'interviens que quand il faut produire du contenu, donc ça s'arrête là, quoi. Et puis maintenant, là j'ai quelqu'un qui bosse avec moi aussi, qui s'occupe, on va dire, de me défricher le terrain sur certains trucs, certains contenus que je voudrais préparer, qui sont un peu plus gros. Ou alors, enfin, ou même de bosser là sur le référencement. En ce moment, il est à fond sur le référencement. Moi, ça me gonfle le référencement. Je sais faire, hein, des trucs, etc. Mais j'ai pas le temps de me remettre à niveau. J'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc, il fait ça aussi à côté, quoi, avec moi. Donc ouais, j'essaye de m'entourer. En gros, je délègue tous les trucs qui me saoulent. C'est un peu le concept, quoi.
Ouais, c'est ce qui est souvent la bonne idée en fait. Ça veut pas dire qu'il faut forcément avoir des grosses équipes, parce qu'il y en a certains qui voudraient monter des grosses équipes, etc. Mais là finalement, ça reste un moyen d'être de te concentrer finalement sur ce qui te plaît, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a des trucs qui sont, voilà, qui sont pas trop mon truc, comme par exemple monter une vidéo. Bon, bah voilà, c'est pas. Mais j'essaye de. Enfin, j'ai pas besoin de prendre un monteur vidéo, tu vois. Ce serait un peu surdimensionné pour les besoins que j'ai en production vidéo. Donc, je le fais moi-même. Mais j'essaye de faire un truc simple, rapide. Je me prends pas la tête, quoi. Je colle un générique au début, un générique à la fin. Je mets deux filtres sur la voix et puis j'envoie comme ça, quoi. Je coupe ce qui me saoule. Enfin, ce qui a rien à faire dans la vidéo, je coupe et j'envoie, quoi. Tu vois, je m'amuse pas à faire des montages très complexes, etc. Puis, je pense que les gens. Enfin. Peut-être que je me trompe, hein, mais les gens, je trouve, enfin, je vais pas dire s'en fichent un peu de la forme. Ce qui les intéresse, c'est le fond, effectivement. Mais bon, la forme, c'est important. Il faut quand même que ça soit un petit peu travaillé. Mais même si ça reste simple, ce petit côté un peu amateur, finalement, c'est un peu rafraîchissant, en fait. Parce que maintenant, même quelqu'un qui démarre un amateur, voilà, va essayer. Je vais pas dire de rouler des mécaniques, mais d'adopter un style journalistique, de faire tout un truc très léché, très pro, qui va ressembler à ce que ferait une boîte en fait, avec un montage très compliqué, etc. Et il va se retrouver, bah soit il va s'essouffler, soit il va se retrouver un peu noyé dans le truc. C'est-à-dire, ça va être un peu insipide, ça va ressembler un peu à ce que font les autres. Et j'aime bien ce côté amateur. Alors, amateur propre, hein, faut pas faire amateur dégueulasse. Donc faut quand même que ce soit propre en termes de qualité de son, de qualité vidéo, etc. Mais faut pas non plus trop se prendre la tête, quoi. J'aime bien ce côté internet où on partage des trucs, où ça reste quand même assez perso, un peu décontracté, quoi.
Mais moi, c'est ce que j'appelle la qualité, le contenu minimum viable, en fait. C'est-à-dire que
Ouais.
si on reprend ton podcast, du moment que t'as un son qui est écoutable, qui fait pas mal aux oreilles, qu'il n'y a pas de saturation, qu'il n'y a pas de bruit sans arrêt, qu'il n'y a pas de pop dans tous les sens, et que on arrive à comprendre sans avoir besoin d'avoir un effort d'attention compliqué. Parce que c'est ça le problème souvent, c'est que des fois le son est pas bon et tout, mais tant
Ouais.
qu'on a une qualité qui permet d'écouter sans qu'on soit obligé de se concentrer en disant oh là ce son il est horrible etc j'arrive pas à écouter. Et finalement le reste on n'a pas besoin d'avoir certains trucs super léchés etc. C'est comme si moi je déteste les coupures sur YouTube tu sais de jump cut là où
Ouais.
c'est tac 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 etc. Et il y en a qui le font aussi dans le podcast par exemple qui se mettent à tout couper alors qu'ils enlèvent les moindres e les moindres hésitations etc. Et ce qui au final c'est plus du tout naturel cette histoire-là. Et en plus je pense qu'ils perdent énormément de temps et qu'ils perdent aussi ce qui fait tu vois les intonations les hésitations les trucs qui font qu'en fait ça reste de la discussion humaine.
Ouais, les silences, etc. Alors, je l'ai fait au début, moi. L'épisode que tu as écouté, le premier, je l'ai beaucoup cuté pour tester. Donc, j'ai enlevé tous les E, les machins, mais en fait, ça me prenait tellement de temps que maintenant, je me prends plus trop la tête. En fait, j'enlève les trucs. Je coupe quand même quelques trucs quand il y a des ratés ou quand il y a des gros E ou, voilà, ou quand ça sature un peu, quand il y a des problèmes. Mais voilà, maintenant, c'est plus, à la limite, c'est plus visuel qu'à l'écoute, quoi. Ça, je regarde la waveform, là, la forme du son, et je me dis, tiens, là, il y a un truc, je reconnais les E, en fait, juste à la forme du son. Donc, je sais à peu près où faut que je coupe, et j'enlève, quoi. Mais ouais, ça prend un temps de dingue, je l'ai fait, donc je peux le dire, ça prend un temps de dingue, c'est pas forcément efficace. Effectivement, ça enlève un peu de naturel, quoi.
Ouais, mais moi je fais comme toi en fait. Je regarde ma forme, je la dézoome et puis je regarde les blancs. Je dis ah, même quand tu dézoomes, le blanc il est quand même très gros. Où il y a des espèces de pics les uns derrière les autres. Il y a dû se passer un truc à ce moment-là.
Ouais.
On va l'écouter. On va voir ce qui se passe, voir si on n'a pas fait une cagade. Hein, des fois, soyons honnêtes, hein, ça peut arriver. Moi des fois je tape dans mon pied de micro et ça fait une espèce de vibration qui est horrible. Donc là je le sais. Et puis des fois il y a des trucs qu'on n'entend pas. Tu vois, moi j'ai un camion par exemple qui passe à chaque fois que j'écoute, j'enregistre le podcast le matin. J'ai un camion qui passe, alors il démarre le moteur à fond. L'autre jour, je disais, mais il faut qu'il passe il faut qu'il apprenne à conduire, ce monsieur, tu vois, c'est pas possible. Donc, des fois, ça, je m'arrête, tu vois, je laisse, et puis hop, après, je sais que ça, je leur montrerai. Mais en dehors de ça, c'est vrai que et puis on se facilite la vie, ça va beaucoup plus vite, hein, parce que.
Ouais, puis après même sur la qualité du son, ce qui est sympa, c'est que quand je te parlais de recyclage, tu vois, par exemple, apprendre à faire de la musique, du coup, j'ai poussé le truc un peu plus loin. J'ai appris à faire un peu de mixage, etc. Voilà, mixage, mastering, etc., voilà, avec des bouquins, avec des tutos, etc. Et finalement, comme je le faisais pour ma musique, bah, je l'ai fait pour mes podcasts. Donc il y a des moments où j'ai enregistré un peu crade le podcast. Et j'ai réussi quand même à, je vais dire, le sauver, parce que voilà, la personne était au téléphone, c'était pas super super génial en qualité, mais j'avais pas le choix, donc j'ai essayé quand même d'améliorer un peu le son, j'essaie de mettre en valeur le son, la voix de l'intervenant, donc je modifie un peu, je joue avec ce que j'ai appris en musique, en fait, pour faire ressortir la voix et avoir une qualité propre. Et voilà, et donc c'est pour ça que enfin, je recycle aussi les connaissances, quoi. Pas juste les contenus, mais on peut utiliser plein de trucs. Et je fais la même chose sur les vidéos YouTube, et même là sur Twitch, j'ai mis 2-3 trucs pour que le son soit un peu moins dégueu qu'un son brut, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est en fait le fait de faire des contenus d'un côté permet de progresser sur l'ensemble, et c'est ce que je dis d'ailleurs aussi, c'était une raison que j'avais donnée de faire du TikTok. J'ai dit si vous faites pas du TikTok pour que ce soit vu, faites au moins du TikTok pour vous entraîner à c'est moi ce que j'aime bien dans enfin le TikTok c'est 15 secondes. Donc finalement si t'arrives à être chiant 15 secondes, c'est possible d'être chiant en 15 secondes hein, d'ailleurs. Mais il faut que t'arrives à tout passer en 15 secondes, et je trouve que c'est un exercice qui est redoutable pour ceux qui veulent faire du YouTube, parce que 15 secondes, c'est déjà plus long que le temps que met un internaute moyen à zapper sur une vidéo YouTube quand le début il trouve que c'est trop lent en fait. Et j'ai dit, si vous entraînez à faire du TikTok, dans tous les cas, ça vous améliorerait vos stories Instagram, dans tous les cas, ça vous aidait à faire des meilleures accroches pour YouTube, des meilleures accroches pour des podcasts, des meilleures accroches même pour du blog, hein, tout simplement, parce que c'est un ensemble de connaissances qui s'accumulent les unes au-dessus des autres en fait.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après TikTok, moi, j'arrive pas à faire 15 secondes. Hein. Quand tu veux montrer des choses, expliquer des trucs, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a le format 1 minute aussi, ça passe. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que 15 secondes en dansant, c'est un peu long. Mais 15 secondes quand tu dois expliquer comment gagner de l'argent avec avec ton blog, ça va être un petit peu plus compliqué. Même si après, en essayant de couper, j'ai vu un Espagnol il y a pas longtemps, mais qui le fait en anglais, tu vois, et il donne des astuces. C'est comment gagner de l'argent. Alors je sais plus son nom, faut que je le retrouve. Comment gagner de l'argent. Et tous les jours, il donne des astuces de comment gagner de l'argent sur Internet depuis chez toi, tu vois. Et en fait, il arrive à le faire dans un format, on va dire autour de 30 secondes, tu vois. Alors des fois, il va sur la minute. Je pense que ça lui demande beaucoup de taf. Mais tu sais, il y a plein de montages, des retours, il monte des écrans et tout. Ça va super
Ouais.
vite avec du sous-titrage. Mais n'empêche, c'est, enfin, il y a bon, il y a des idées, c'est un peu con des fois. Tu te dis, limite légal d'ailleurs, une fois j'avais vu. Mais par contre, il a des super idées, tu vois, des fois. Et tu regardes l'audience qu'il a dessus. C'est chacune de ces vidéos est vue, mais des centaines de milliers de fois en fait. Hein. Donc il y a vraiment, vraiment une véritable audience là-dessus, quoi.
Ouais.
Bon, alors, tiens, on va finir là, on papote, on papote, on papote. Pour boucler cet épisode, parce que je sais que les gens, ils sont férus des outils, ils adorent les outils, ils se disent, ah là là, mais comment il fait? Alors, on va pas parler, ton blog, il est en WordPress, hein, comme tout le monde.
Oui.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le forum, c'est un discours, ça, c'est, voilà, c'est la base. D'ailleurs, ton discours, tu le gères pas tout seul, aussi?
Si, si, je le gère moi là.
Ouais.
C'est même pas mon ami là, c'est moi qui gère.
Ouais, c'est un peu chiant, non? Tu trouves pas par un moment?
Ah non.
Ouais. Moi, non, c'est que l'autre jour m'a fait une grosse frayeur sur la mise à jour avec les bases de données, sur un truc comme ça.
Ah non, non, il y a du. Non, franchement, c'est bien pensé, il y a de la sauvegarde automatique. Voilà, il n'y a pas. Ça s'installe. Enfin, une fois que tu as le backup, de toute façon, même si ton serveur il prend feu, ton Discord, tu le remontes en 2 secondes avec le backup, quoi.
Ouais.
Donc, non, non, c'est assez tranquille, hein, ça roule bien, Discord. Des fois, effectivement, tu as des problèmes d'espace disque, de choses comme ça qui se remplissent, etc. Donc, le truc est un peu crashé, donc il faut aller taquiner un peu de la ligne de commande. Mais globalement, tu fais tout, même les mises à jour, tu les fais via l'interface web, donc c'est super facile.
Ouais, non, c'est vrai que ça se fait bien, mais c'est que l'autre jour j'ai eu une grosse mise. Tu sais, c'est sur les mises à jour de la base de données, des versions de base de données. Il fallait avoir 3 fois plus de place ou 2 fois plus de place que ça, etc. Et c'est vrai que quand ça crache. Hein. Alors là, c'est un peu visible. Mais là où les gens seront vraiment intéressés, tu vois, c'est de se dire, par exemple, comment tu rédiges? Tiens, quand tu veux rédiger un article, tu rédiges directement dans WordPress, tu mets sur un bloc-notes, tu fais du Markdown, comment tu fais ça?
Alors non, comment je rédige? Bah, moi j'aime bien rédiger directement dans WordPress en fait. J'ai du mal à écrire ailleurs et faire des copier-coller et tout. Donc il y a des moments effectivement dans WordPress où je perdais tout. Tu sais, quand ton onglet Firefox crash, tu perds tout. Maintenant c'est un peu mieux WordPress, ça sauvegarde bien, etc. Donc j'ai plus de soucis, on va dire, de plantage. Donc c'est encore plus agréable. Mais sinon, non, en fait, je teste le truc. En même temps, des fois je rédige en même temps que je teste en fait le logiciel dont je vais parler. Donc ça dépend un peu, ou des fois je le teste complètement et après je rédige. Mais quand je rédige, en fait, je rédige un peu comme ce qu'il y a dans ma tête. C'est-à-dire que je peux écrire, on va dire, une phrase d'accroche, écrire la conclusion, ensuite remonter et puis commencer à détailler les fonctionnalités, redescendre et écrire un truc plus spécifique, faire les captures écran, mettre les images, puis après rechanger l'intro et puis faire une petite vanne dans l'intro, puis après, bah après à la fin c'est plutôt le côté esthétique, donc c'est-à-dire choisir un bon titre, choisir une bonne URL, mettre la petite image on va dire d'en-tête, etc. Donc après c'est de la finition on va dire, mais ça c'est le truc que je fais à la fin. Mais sinon dans la rédaction, moi elle est un peu, alors souvent je rédige, on va dire, du haut vers le bas, hein, mais ça m'arrive assez fréquemment. Par exemple, tu vois, je suis sur le site, j'ai le lien, on va dire, dans mon presse-papier, bah, je vais faire la phrase à la fin en disant cliquez ici pour en savoir plus, puis après je vais remonter, puis je vais finir de rédiger l'article, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est sur la rédaction. Tu parlais tout à l'heure de vidéo. Tiens, comment tu montes tes vidéos? À quel logiciel tu fais ça?
Alors, bah, je tourne mon screencast avec un truc sous Mac qui s'appelle iShowYou. Voilà, donc ça filme, c'est super facile, quoi. Et ensuite, bah, j'ai ma vidéo, elle est enregistrée sur mon ordi, je lance Final Cut, je mets ma petite séquence d'intro, ma vidéo, ma petite séquence d'outro, un petit plugin, un petit VST, là, un petit, on va dire, un petit filtre de son sur ma voix. Je cut un peu le début, la fin, parce que le temps de lancer, etc., c'est jamais pile poil. Et puis voilà, puis après je le publie sur YouTube et ça roule. Hein. Enfin, je fais rien en fait, en montage. L'idée c'est toujours d'en faire le minimum, pas parce que j'ai la flemme, hein, mais parce que ça me gonfle en fait. C'est même pas parce que j'ai pas le temps en fait, c'est parce que ça me gonfle, ça m'intéresse pas. Donc l'idée c'est d'aller le plus vite possible.
Ouais, même tes vidéos, tes fameuses vidéos là de Twitch, de pas Twitch,
TikTok?
de TikTok là, quand tu les recoupes, etc. Tu fais aussi tout sous Final Cut ou t'as trouvé un
Ah
autre
non, là
truc?
j'ai un logiciel, je te le recommande, ça s'appelle OK Vidéo.
Ok vidéo.
Logiciel iPhone. Et en fait, t'appuies sur l'écran, ça filme, tu lâches, ça filme plus. Donc en fait, je filme, je dis une phrase, je change d'angle, je rappuie, je dis une deuxième phrase, je change d'angle, j'appuie, je dis une troisième phrase, et voilà, et ça fait mes cuts en fait. Donc ça donne un rythme, alors qu'en fait, je bouge pas de ma chaise, en fait, je fais juste tourner ma chaise en rond, tu vois, ou alors des fois je marche, je fais d'autres trucs, quoi, mais voilà, et donc ça donne un peu ce côté un peu monté, mais en fait, je monte rien, en fait, c'est juste j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, et je raconte mes trucs, quoi.
Alors, OK vidéo, t'écris ça comment? Parce que
Bah, OK, et vidéo, quoi. OK,
d'accord, OK. Et donc ça, on
voilà,
trouve
c'est
ça
une
sur
appli sur iPhone, après, je sais pas si ça existe sur Android, mais. Voilà.
d'accord. Ah bah ça, c'est la bonne astuce. Je la connais vraiment, alors vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu dans le principe, mais peut-être beaucoup plus simple à Clips d'Apple, qu'Apple avait racheté. C'est pareil, c'est t'appuies sur le bouton, ça, tant que t'appuies sur le bouton, ça enregistre. Donc t'as un peu le même système, et en plus ils ajoutent t'as même des sous-titres, tu vois,
Ouais, mais tu as la même chose en fait sur Instagram ou sur TikTok en fait. Tu appuies, ça enregistre, t'arrêtes, ça enregistre plus. Enfin, tu vois, c'est le même délire. Sauf que là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je suis pas enfermé dans TikTok. Du coup, j'ai la vidéo source en fait. Donc après, je peux l'enregistrer et puis la mettre sur Instagram ou en faire autre chose ou l'effacer. En fait, tu peux aussi revenir en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, tu as fait une phrase où t'as bafouillé, par exemple, sur la dernière séquence. Bah, tu l'effaces et tu la recommences. Donc, ça te bousille pas tout le reste de ta vidéo. Mais des
Voilà.
petits trucs comme ça, sympa.
Donc, OK vidéo, je mettrai rien dans les notes d'épisode parce que effectivement, moi je la connaissais pas du tout, donc je ne sais pas de la recommander celle-ci, mais je vais tester, tu vois. Après, je ferai un petit
Ouais.
TikTok pour tester ça.
Ça marche.
Sur le son, puisque tu fais de la musique, avec quoi tu composes?
Alors, bah, j'ai tout testé, hein. J'ai commencé avec Logic Pro parce que c'est ce que j'avais sous Mac. Et en plus j'ai acheté les licences à chaque fois, donc ça m'a coûté assez cher. Après je voyais tous les beatmakers qui faisaient des choses sur FL Studio, hein, donc connu aussi sous le nom de Fruity Loops pour les anciens. Donc je me suis formé sur Logic. Après je me suis formé sur Logic sur FL Studio, donc je connais bien FL Studio aussi. Mais j'étais pas encore super convaincu, quoi. C'était pas très agréable. Et en discutant avec un musicien une fois, il m'a dit, enfin une fois, c'était je sais plus quand, en début d'année, un truc comme ça. Il m'a dit, essaye Ableton. Donc bah, j'ai testé, hein, j'ai téléchargé le truc, j'ai regardé, et puis je l'ai acheté. Et en fait, maintenant, je fais que dans Ableton. Donc c'est Ableton Live Suite 10, quoi. Donc c'est le logiciel. Voilà, mais il paraît un peu austère comme ça, mais en fait, il est. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve plus pratique, plus agréable, c'est plus carré. Et finalement, on va plus vite, on gagne du temps.
D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tiens, pour l'image, t'as un truc, t'as une petite appli pour ou t'es un Photoshopper ou je sais pas quoi quand t'as des photos à mettre sur ton site.
Ah ouais, quand je veux retoucher un peu des images, bah, j'ai une super appli sous Mac qui s'appelle Pixelmator.
D'accord.
Donc il y a deux versions, mais moi j'ai la version pro maintenant, qui est un peu plus, on va dire, déroutante en termes d'interface graphique, mais une fois qu'on l'a pris en main, c'est plus sympa. Et j'aime bien parce qu'en fait dedans ils ont un truc de machine learning, ils ont une fonctionnalité, si tu veux, qui permet d'améliorer ton image. Par exemple, une image qui est petite, tu peux l'agrandir et du coup garder une qualité correcte. Ou alors sur la correction des couleurs, des choses comme ça. Donc je me prends pas trop le chou non plus, ça va assez vite. Et puis maintenant je le connais bien, donc Pixelmator, voilà, ça fait des années que j'utilise en version normale, et là ils avaient sorti une version pro il y a quelques années, et donc je l'avais acheté, je l'ai laissé un peu de côté parce que j'étais habitué à la version normale, et finalement là je m'y suis remis à version pro et elle est carrément mieux. Donc voilà, j'ai ça quoi, sinon c'est tout. Hein.
Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je suis un utilisateur effectivement de Pixelmator depuis, depuis sa sortie, hein, vraiment. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'embêtent sous Photoshop, prennent des
Ouais.
Adobe, des abonnements à Adobe qui leur coûtent
Oui.
super cher. Alors que surtout quand on est sous Mac, on a des Pixelmator. Et puis, je le dis aussi sur la suite Affinity. Alors tout ce qui est Affinity, moi j'ai eu designer, publisher et compagnie. En ce moment, c'est tout à 50% en plus, grâce au virus et au confinement. Ils ont tout mis à 50%, ce qui est super rentable parce que le logiciel il vaut 40 euros actuellement. Toute la suite, ça vous coûtera 100 euros en une fois, mais ça évite tous les abonnements sur les suites Photoshop et compagnie. Et c'est vrai que c'est des logiciels. En plus, moi je trouve que, et encore que Pixelmator, ils en ont rajouté, mais finalement il y a l'essentiel, quoi. On se sert à peu près de ce dont on a besoin. Il n'y a pas des trucs en pagaille,
Oui,
quoi.
voilà, ouais, non, ça va. Moi, après, j'ai pas des besoins de fou en retouche photo, hein, donc ça va. Et puis, pour le montage vidéo, bah, j'utilise principalement Final Cut. Mais par exemple, quand j'ai fait mes formations, j'ai acheté un fond vert exprès pour que ça soit un peu propre. Et Final Cut, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Du coup, j'ai récupéré un Adobe Premiere juste pour régler le fond, en fait, le
D'accord.
fond vert. Et du coup, j'ai réussi à faire un truc de qualité, de meilleure qualité avec un Premiere. Donc après, ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Je pense que Photoshop, tu feras toujours mieux que Pixelmator. Mais voilà, moi après, j'ai des usages qui restent un peu, on va dire, restreints, enfin tranquilles, quoi. J'ai pas des gros besoins, donc j'ai pas besoin d'artillerie lourde. J'ai mes petits outils, mes petits trucs, et ça va, quoi.
Ouais, et moi alors, moi sur en montage vidéo, moi je le dis sur Mac, mon truc c'est ScreenFlow. Je fais tout avec ScreenFlow, qui est un outil qui normalement fait du screencast, hein, mais il fait du fond vert, il sait tout faire. Donc même mes montages
D'accord.
de vidéos de vlog, de course à pied, je mets tout dedans, je rajoute tout dedans. C'est juste là où il est un peu moyennement doué, tu vois, c'est sur le traitement du son. Il y a un espèce de truc de compresseur de son qui existe, hein, dedans, mais il faut vraiment que la prise de son soit toujours pareille, parce que sinon les pics, il sait pas les gérer, il les gère moins bien que des compresseurs de son, tu vois, des outils plus puissants. Donc des fois
D'accord.
j'exporte le son, je le réimporte. Dan, d'ailleurs, ce qui m'amène à ton logiciel, quand tu fais ton podcast, avec quoi comment tu montes, comment tu enregistres?
Bah, au début, j'ai commencé avec Audacity pour monter, hein, pour le montage, mais en fait, c'était la plaie. Donc, en fait, comme j'utilisais Ableton, bah, je suis parti dans Ableton. Donc, en fait, je fais mon montage dans Ableton. Et pour enregistrer, j'utilisais un service qui s'appelle Zencaster, qui en fait est un site web. Donc, tu envoies l'URL à ton invité. Il lui faut juste un navigateur Chrome ou Firefox, il lui faut un micro. Et ce qui est pratique, parce qu'en fait, le son est enregistré en local. Donc en fait, une fois que l'échange est terminé, une fois que l'entretien est terminé, le MP3 ou le WAV est envoyé de son ordinateur directement sur le serveur de Zencaster. Donc en fait, moi après, je récupère le fichier d'origine en fait. Donc j'ai du bon son, j'ai pas du son qui a été malmené dans le réseau et donc un peu dégueulasse, etc. Et j'ai quand même toujours un backup. Donc je fais rouler un enregistrement backup que j'utilise avec une appli toujours sur Mac qui s'appelle Audio Hijack, qui permet en fait qui fait office de table de routage en fait de son. Donc j'ai une sauvegarde comme ça.
Et je le dis, hein, pour ceux qui sont tentés par Zencaster, allez voir, parce qu'en ce moment vous pouvez vous inscrire sur la bêta pour avoir la version vidéo de Zencaster.
J'avais pas vu qu'ils avaient sorti ça.
Si, alors tu fais zencaster.com, tu vas tout de suite, tu as accès à la bêta vidéo, et en fait ils filment
Carrément.
en HD, hein, donc c'est la qualité HD. Leurs démos
Très
sont
cool.
assez bien sur la qualité, tu vois, c'est pas mal foutu leur truc. Et je crois que, alors Zencaster en plus en ce moment, là aussi avec le Covid, je crois que c'était gratuit. Enfin, ils ont fait des trucs.
Oui, il y a
Il y a
eu
tout
des
un tas de
offres.
choses. Et je crois que la bêta, pour l'instant, on peut faire des tests, etc. Tu vois. Et là, donc là, ils ajoutent le côté vidéo en plus. Donc ce qui est pas mal comme truc.
Bah, ça va peut-être m'intéresser parce que du coup, ça va peut-être me permettre d'avoir, tu sais, de poster en fait finalement mes podcasts en vidéo, hein, pourquoi pas.
Ouais. Et c'est vrai que c'est à tester, fait partie des outils qui peuvent être assez intéressants. Et ben, tu vois, je crois qu'après on est pas mal au niveau des outils. Alors bien sûr, on pourrait se demander est-ce que t'as pas un outil, tu vois, une astuce pour revenir sur l'histoire de ton livre, hein, tu vois, un truc qui ferait que on n'a plus envie de toucher son téléphone ou alors que ça nous dissuade de le toucher, tu vois. Je me rappelle pas si t'as mis des astuces qui t'aident à te déconnecter de ton téléphone.
Ah bah dans le livre, il y en a plein, hein, des astuces, hein, donc c'est que ça d'ailleurs. Mais bah, l'astuce, c'est déjà de ne pas le prendre dans la chambre à coucher, par exemple. C'est d'essayer, en fait, déjà, c'est de voir si tu es accro, en fait. Donc avant de savoir, si tu veux savoir si tu es accro, bah, tu pars de chez toi sans ton téléphone. Ou tu essayes de passer un week-end complet sans ton téléphone. Et là, tu vas vite voir si tu as des tremblements dans les mains, si tu as des réflexes un peu bizarres. Donc voilà, déjà ça permet de prendre conscience. Et après il y a plein d'astuces, plein de techniques. Donc pas le prendre le soir dans la chambre parce que ton cerveau va te réveiller pour que tu regardes ton téléphone ou ça va te perturber le sommeil, etc. Même si c'est inconscient. Il y a des histoires de mise sous silencieux des notifications, ce genre de choses. Donc tu peux couper les notifs. Moi j'ai plus de notifs. Tu peux aussi enlever ton répondeur téléphonique. Moi,
ah oui.
J'ai plus de répondeur téléphonique, ça fait je sais pas, 10, plus de 10 ans, quoi.
Ouais.
J'ai plus de répondeur téléphonique.
J'avais lu ça, que t'avais supprimé ton répondeur téléphonique. Ce que je pense que je vais faire la même chose parce que j'écoute jamais les messages qu'on me laisse. Donc...
bah voilà, c'est juste. Voilà. Il faut le faire.
Comme ça. Mais il y a des gens qui comprennent pas que le téléphone est une véritable intrusion, en fait. Quand on nous appelle, moi je déteste appeler les gens parce que je me dis je les dérange tout le temps et j'aime pas qu'on me téléphone. Mais est-ce que t'aurais, tu vois, je sais pas, est-ce que t'as une appli, tu vois, un truc qui te dit. Même si tu touches ton téléphone, finalement, il te sert à rien, tu vois. Enfin, où il coupe Internet tout seul, tu vois, un truc qui t'aiderait
non,
au cas où.
Tu peux pas avoir des choses comme ça parce qu'en fait, c'est plutôt un combat avec toi-même. Donc, en fait, c'est à toi de t'imposer les choses. Donc après, par exemple, si tu passes trop de temps sur un réseau social avec ton smartphone, bah, il y a un moment, il faudra peut-être que tu désinstalles ce réseau social. Parce que, voilà, t'as un réflexe de le prendre et d'aller sur Instagram. Tu vois, tu vas envoyer un mail de boulot. Tu vas prendre ton téléphone et instantanément, sans même t'en rendre compte, tu vas lancer Instagram et t'es parti pour une demi-heure ou une heure de consultation de compte Instagram. Et après, tu te réveilles un peu puis tu te dis merde, mais pourquoi j'avais lancé mon téléphone? Ah oui, je dois envoyer un mail et machin. Et en fait, t'as perdu du temps, quoi. Donc, si tu te rends compte de ça, après, bah, tu peux te dire bon, bah, Instagram, je le désinstalle. Ou alors je le mets plus loin dans mes écrans, tu vois, plus vraiment sous le pouce, mais vraiment un peu plus pénible pour aller le chercher, ce genre de choses. Donc après, c'est des barrières que tu te mets entre toi et tes usages. C'est plus un combat, on va dire, personnel qu'un truc à tout faire avec des erreurs. Tu as des applications hein, qui te bloquent en fonction des usages, etc. Mais si vraiment tu es accro, tu vas débloquer, tu vas déverrouiller toi-même le truc. Hein, donc,
ouais. Moi, j'avais testé certaines applications. Il y en a une auquel j'étais abonné, mais je ne me rappelle même plus. L'autre jour, parce que j'ai arrêté l'abonnement, il me relance depuis, fait des jours qu'il me relance. Il me dit, mais vous allez être à nouveau être envahi par les messages, etc. Reprenez votre abonnement, etc. Je ne me rappelle même plus son nom parce que, tu vois, à force de ne pas m'en servir. Il y a les arbres avec Forest, il y a des trucs comme ça, mais moi, ça n'a jamais marché, ouais. de l'arbre qui pousse comme ça, etc.
Non, ça ne sert à rien.
Et en fait, là où je me suis rendu compte, c'est, et là, c'est un truc, c'est que c'est souvent le si tu le touches trop le matin dès le départ, ça il y a une espèce de conditionnement qui ça tourne ça augmente que dans la journée, en fait. Moi, c'est le truc que j'ai remarqué.
D'accord.
Et j'ai quand même fait un truc, c'est que j'ai pris l'astuce, je suis allé dans les options d'accessibilité, et si j'appuie 3 fois sur le bouton home, et ben il passe en gris en noir et blanc.
Ouais.
Et ben Instagram en noir et blanc, c'est moins sympa. Et encore que franchement, quand on voit tes baguettes apparaître à l'écran d'Instagram en noir et blanc, on se dit que finalement elles sont pas si moches que ça. Et puis en plus, quand on te voit prendre, tu m'as fait rire parce que je t'ai vu, t'as pris la saucée en faisant ton barbecue hier et je rigolais.
Ouais.
Et moi j'ai dit ouais, putain, mais moi ça me serait pas arrivé à moi. Ben si, ça aurait pu nous arriver, mais on est juste passé entre les gouttes. Mais c'est le genre de truc qui me fait rire. Et c'est vrai que c'est comme ça. Je trouve que c'est quand tu dis qu'on rentre dans ton quotidien, c'est qu'on voit vraiment des trucs comme ça. Comment tu fais ton pain. Comment tu t'as quoi, t'as cassé ta cafetière il y avait pas longtemps aussi, ça je dis mais c'est pas
ouais
je me dis on est vraiment dans les aventures au quotidien, c'est la web série. Et je peux pas, alors tu vois, et franchement on va clôturer cet épisode, mais avant je dois te poser une question qui me taraude, tu vois, qui est vraiment extrêmement importante pour moi. C'est est-ce que tu regardes encore Plus belle la vie?
Non, je regarde plus Plus belle la vie. J'ai lâché, ça fait des années.
Ah, t'as lâché Plus belle la vie depuis des années, t'as réussi à te désintoxiquer de Plus belle la vie.
Ouais, c'est vrai.
Parce que finalement, t'étais apparu ou pas dans le.
Non, j'avais joué dans un épisode en tant que figurant, hein, ne
Ouais.
vous en savez pas. Et alors, tu vois, le soir, j'étais là, super chaud, dans le canapé et tout. Putain, ça y est, c'est l'épisode, je le reconnais et tout. Attends, là, ça va être le moment où je passe et tout ça. J'étais ouf, quoi. Et en fait, la scène où je devais passer, ils l'ont coupé. Enfin, ils ont pas coupé la scène, mais c'est monté de telle façon qu'on me voit pas du tout. Donc, j'étais dégoûté, surtout qu'en fait, un tournage, c'est super long. Tu recommences plusieurs fois la même prise. Il pleuvait en plus ce jour-là. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'en as marre et tout. Et donc, bon, la récompense, tu vois, c'était au moins de. Tu vois, sur la bucket list, il y avait figuré dans un épisode de Plus belle la vie.
Ouais.
Mais non, c'était pas. Ça s'est pas fait. Enfin, ça s'est fait, mais que dans ma tête. Hein, j'apparais pas à l'écran.
Donc t'as
Mais
bien
ouais.
joué dans Plus belle la vie, mais sauf que personne ne te voit et
Voilà,
toi
c'est
tu
ça.
sais que t'es apparu dedans, toi t'as vu le
C'est ça.
Mistral, tu sais à quoi ça ressemble, etc.
Ouais, moi j'ai tout visité, les studios et tout. Non, mais en fait, c'était un délire parce que. C'est vrai qu'on regardait ça avec ma chérie, et puis quand c'était son anniversaire, en fait, je me suis dit, on va faire un truc cool pour ses 30 ans. Et bizarrement, il y a eu un de mes lecteurs qui bosse dans les studios, en fait. Et voilà, on a discuté un peu. Bah, lui est venu me voir pour un court-métrage que lui publie, enfin diffusait, hein, faisait de son côté. Et donc, en me parlant un peu, donc je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Puis en me parlant un peu, je découvre qu'il était en Plus belle la vie. Donc je me suis dit, ça peut être marrant, quoi. Donc je lui propose et il me dit, ouais, je peux te faire visiter les studios, etc. Il y a un tournage, tu pourras même figurer dedans si tu as envie. Donc en fait, je me suis. Voilà, on a été voir ce gars et puis il nous a fait la visite guidée, etc. Mais c'était sympa, en fait, tu sais, de se retrouver un peu dans le décor. C'est toujours impressionnant. J'ai jamais vu vraiment de décor de cinéma ou de film, mais je pense que quand tu vas visiter les studios Paramount ou je sais pas quoi là aux États-Unis, ça doit te faire un peu cet effet-là en fait
Ouais.
de voir un truc que ouais, tu vois à la télé ou quand tu passes dans un jeu télévisé, etc. Voir l'envers du décor, c'est super sympa.
Ouais. Et même sans aller dans les studios, hein, quand il y a eu des tournages de films à Clermont, moi je me rappelle de Camping, c'était quoi, le 2, je crois, tu sais, qui est tourné Place de Jaune, les premières scènes, etc. Je connais des gens qui étaient même figurants, on les voit dans le film,
D'accord.
etc. Eux, ils n'ont pas été coupés, tu vois. Eux, on les voit bien dans le film, etc. Mais voilà, bon, eux, ils ont eu la chance d'être dans le film. Et
Ouais.
j'avais assisté, moi, tu sais, avec ma carte Cyberbounia à l'époque, j'étais
Oui.
accrédité presse.
Nice.
Donc finalement, tu vois, donc j'avais vu un petit peu les trucs, voir un petit peu les acteurs, etc. Bon, après, c'est pas très sympa l'ambiance parce qu'ils sont tellement stressés. La minute coûte tellement cher, il y a tellement de gens et tout, il y a les caméras dans tous les sens
Ah,
qui
ça bosse,
tournent.
hein.
Mais c'est ça qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire que les gens, ils attendent un autographe et puis on se rend pas compte que juste le gars, la minute, la seconde de tournage, en fait, elle leur coûte des milliers d'euros parce que il y a tout le matériel, il y a toute la location du matériel, le temps, la météo, le soleil s'il apparaît au bon moment et tout. C'est tout un tas de trucs. Et c'est vrai que c'est super bien. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que. Pourquoi je te parle de ça, c'est que c'est intéressant l'anecdote, c'est que finalement, en créant du contenu, en étant présent, en discutant avec les gens, en échangeant, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des trucs comme ça qui s'ouvrent, etc. Et ça revient, tu vois, sur ma première question de départ, qui était de dire, bah, finalement, quelle aurait été ta vie sans blog, on peut pas le savoir, sans internet, on peut pas le savoir. Mais n'empêche que le fait d'avoir créé du contenu, le fait d'avoir fait tout ça t'a quand même permis de construire, de rencontrer des gens, de discuter avec des
Ah
gens,
oui.
etc. Et c'est quelque chose qui a une valeur qui est inestimable, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça m'a permis de faire plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai fait. Enfin, ça serait trop long, mais voilà, que ce soit les boîtes que j'ai pu monter, les voyages que j'ai pu faire, les expériences, on va dire, que j'ai pu faire, les gens que j'ai rencontrés. Enfin, c'est cool. Et puis même le fait que le site soit connu, donc finalement, ça ouvre des portes. Il suffit que je balance. Si j'ai besoin d'un truc, je balance un tweet et il y a de fortes chances, tu vois, quand j'ai un problème avec ma connexion Orange, ça se règle un peu plus vite que quand ma tante a un problème avec sa connexion Orange, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est cool, quoi.
Et ben voilà, et ben écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup
Ben, merci.
pour ce temps passé, cette discussion, c'était super sympa de voir un petit peu les coulisses, la réflexion, etc. Parce que je disais dans le podcast privé, ce matin j'ai enregistré le podcast privé pour ceux qui financent le podcast par Patreon, et je leur disais, j'ai une anecdote de toi, tu te rappelles les apéros web qu'on organisait avec ma
Oui,
femme,
clairement.
et
Ouais.
le jour où il y a France 3 qui est venu dans un apéro web, et je sais pas si t'avais su cette anecdote, il t'avait interviewé, t'étais passé sur France 3 ce jour-là, je sais pas si tu te
Je m'en
rappelles.
souviens pas. Non, je
Et
m'en souviens pas.
il t'avait posé des questions, il t'avait demandé un truc qui devait être du style, qu'est-ce que tu fais? T'avais dit, j'ai un blog. comme ça. Et ils ont interviewé quelqu'un d'autre, juste derrière, et ce gars-là, il a dit un truc, il a dit, oh, vous vous rendez pas compte, c'est génial, on se rencontre tous, d'habitude on travaille tous et tout, on a notre machine à café, c'est Twitter, mais là on se rencontre tous et tout, et regardez, on a le plus grand blogueur de France qui est là à côté. Et la journaliste, elle l'a regardé, et j'étais là à côté, elle a dit, hein, il y a le plus grand blogueur de France qui est là, mais c'est qui? Elle dit, bah, le gars là-bas, le grand, justement. Elle dit, mais je vais l'interviewer, il m'a dit qu'il avait un petit blog. Je dis, bah oui, mais d'un autre côté, c'est pas extrêmement surprenant, parce que quand on te voit comme ça, c'est vrai que sur l'apparence, tu vois, parce que je réagis, en ce moment, il y a la vidéo de JPFN et compagnie, là, tu sais, avec sa grosse bagnole, etc. Et fait partie des gens où c'est totalement l'inverse, tu vois, là, tu dis, il y a des gens, ils s'imaginent, je pense, à toute une vie, etc. Et en fait, si quand on te croise, quand on te connaît un peu, on voit que c'est pas du tout ça. Et c'était intéressant de rentrer dans les coulisses, de voir un petit peu, ce monde qui est là, qui est surprenant pour plein de gens, mais c'est la réalité, c'est que on a tous une vie qu'on montre sur Internet. Et puis, on a tous notre tartine de merde. C'était intéressant d'en parler aussi, hein, de dire que des fois, c'est pas facile, hein, c'est pas que la vie rêvée, etc. Mais qu'il y a aussi des bons côtés, que ça vaut le coup de provoquer les bons côtés comme ça. Et que la création de contenu, de s'exprimer sur Internet, d'exprimer des idées, etc. Ça ouvre aussi certaines opportunités qu'on n'aurait pas si on le faisait pas. Donc c'est pour ça que c'était super sympa de t'avoir et vraiment de discuter avec toi. Pour finir cet épisode quand même, pour te retrouver c'est relativement facile, hein.
Oui, vous tapez Corben dans un moteur de recherche avec le site que vous voulez derrière, donc soit corben.info, soit le Twitter Corben, Instagram Corben00, mais bon, ça se trouve. Twitch maintenant, CorbenFR, voilà, Twitch et TikTok CorbenInfo, enfin, voilà, après, j'ai pas forcément le même pseudo partout, enfin, c'est Corben quelque chose, quoi, parce que des fois, c'est un peu squatté, mais voilà, ça se trouve facilement.
Voilà, donc et vous tapez à la porte chez Twitch, effectivement ce matin j'étais connecté à Twitch tôt le matin, je crois que c'était, je me rappelle un jour, je m'étais connecté pour voir ce qui se passait, mais moi c'est vrai que le matin j'évite Twitch etc, mais un jour je viendrai de voir un petit peu sur quoi tu travailles, comment tu avances, en tout cas c'était super sympa de t'avoir pour ce numéro anniversaire des 3 ans du podcast, merci beaucoup, on va bientôt se retrouver, bon alors j'essaierai de mettre assez rapidement les liens de dans les notes de l'épisode, je suis un peu en retard, c'est pour ça que je le dis assez rapidement, je suis un petit peu en retard, je suis un petit peu en décalé aussi sur ces trucs là, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble, c'était super sympa et on se retrouve nous les auditeurs, hein, tous ceux qui écoutaient ce podcast, la semaine prochaine ou je sais pas quand d'ailleurs, pour un nouvel épisode, parce que je suis un peu en décalé, parce que normalement je publie pas le mardi, d'habitude je publie tous les vendredis, mais aujourd'hui là je sais pas quand est-ce qu'on va publier, donc on va dire on se retrouve très 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 bientôt. Merci à toi.
Merci, au revoir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.